Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction, le deuxième podcast déjà de la rentrée, mais le troisième en tout depuis que nous avons redémarré, puisque vous le savez, il y a eu le podcast de la rentrée effectivement, et le podcast Saga Fallout que nous avons réalisé avec deux gameblogueurs. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Avec moi aujourd'hui, nous avons...
Julo,
ouais,
ouais.
Et
salut,
nous avons
les amis.
Romain,
konnichiwa.
Ouais, non, t'es censé faire ouais aussi, on comprend.
Ouais,
voilà.
Konnichiwa.
Yatta. Avec Julo et Romain, aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur le Tokyo Game Show 2016 qui a fermé ses portes ce dimanche 18 septembre. Nos deux reporters, Julien et Carole, étaient sur place évidemment pour couvrir l'événement. Ici à Paris, on a suivi comme des cochons, matin, midi et soir. On était là, on regardait ce qui se passait, on newsait, on regardait les vidéos, on regardait les impressions. On n'a pas dormi d'ailleurs. Julo, tu peux confirmer, tu n'as pas dormi.
Mais j'ai pas dormi depuis 3 jours.
Depuis 3 jours, exactement.
Depuis 6 jours même.
Et c'est un peu le cas aussi pour Julien et Carole qui ont énormément travaillé, qui ont vu, avant qu'on passe, eh bien... au sommaire global de l'émission, eh bien, nous allons parler évidemment du TGS, mais aussi de PES et
FIFA.
Et c'est lui. Et là, Romain, tu laisseras ta place à Traz à ce moment-là.
Parce que vachement bien placé.
Ton avis sur PES et FIFA.
Moi, je pense pourtant que les gens ont envie de mon avis.
Non, monsieur. Les jeux de foot dans l'univers de Zelda, peut-être, ils voudraient entendre.
Ah, bah là, ça serait parfait.
Voilà. Avec des dragons et des chevaliers.
Et là, on a plus
sur PC.
Et bref, vous avez donc compris les deux thèmes de ce podcast. Et donc, on va passer d'abord au win de la semaine, mon petit Julo. Puisque cette fois, tu vas winner. Toi qui te plaignais la dernière fois que tu as entendu.
Voilà, je peux faire quelques critiques, voire avoir quelques doléances et être entendu.
Ça peut arriver.
Donc je suis content.
Voilà, c'est une démocratie chez Gameblog. Tu peux y aller.
Mais exprime-toi, vas-y.
Alors.
N'hésite, n'aie pas peur de dire ce que
je
tu as à dire.
Je vais le faire. Alors, le winner de la semaine.
Non, mais franchement, tu peux.
D'accord, il n'est pas japonais, mais il est footballeur.
Ah, donc dis-moi en plus.
Voilà, il s'appelle Michy Batshuayi.
Ouais.
Il a malheureusement joué à Marseille. Bon, ça, personne n'est parfait.
Ah.
Il est désormais à Chelsea. Mm-hmm. Et sur Twitter, il a fait parler de lui au moment de la sortie de la démo de FIFA. Parce que
absolument.
Il a découvert, peu avant d'ailleurs la sortie de la démo, qu'il avait certes une note de 81 au total, mais qu'en passe, il n'était qu'à 59. Et là, il a mis petit smiley qui pleure en disant « Quoi ? 59 ?» Mais attendez, je suis pas si mauvais en passe, etc. Donc ça lui a fait.
Sachant qu'il a fait 9 passes décisives quand même la saison dernière avec Marseille en plus, ça relève quand même de l'exploit pour la saison dernière en tout
cas.
C'est
vrai, c'est pas faux.
Voilà.
Oui, c'est
donc du coup,
bonne remarque.
Des notes peut-être un peu meilleures.
C'est vrai. Donc alors il était dégoûté, il a fait ce tweet qu'il a envoyé évidemment avec le hat
eSports FIFA. Ou, voilà.
Et du coup quelques temps plus tard, il a même lancé un autre tweet en disant je suis en train de downloader PES 2017. Et là évidemment les community managers de Pro Evolution Soccer ont sauté sur l'occasion pour dire hey mec, chez nous t'es pas à 59, t'es à 73 en passe.
Ouais.
Je dis ça juste comme ça, je dis rien comme dirait l'autre. Évidemment si tu veux un exemplaire du jeu, n'hésite pas. Ce à quoi il a répondu: suivez-moi s'il vous plaît. Alors évidemment, quand on veut suivre sur Twitter, c'est pour s'envoyer un message privé. Vous aurez compris la suite. Je pense qu'une histoire d'amour est
née
entre Michy et PES cette année. Voilà,
en tout cas, c'est bien vu. Effectivement, c'est un beau win de la part de PES qui a réussi à s'incruster dans la conversation comme ça pour dire machin. Maintenant, ça va se jouer aux notes en fait. Hein. Les joueurs, ils vont plus jouer en fonction de qui est le meilleur. Faire je suis mieux noté sur PES. Bon, ok, je vais sur PES. Ah, je suis mieux noté sur FIFA, je vais sur FIFA.
Voilà. Enfin bon. Voilà, du coup, à la fin, FIFA va donner des bonnes notes à tout le monde.
Voilà.
Le jeu n'aura plus aucun intérêt, mais tous les footballeurs seront contents.
Et nous avec ?
Bah non.
Bah si.
Bah non, nous
aussi on veut jouer avec des robots, c'est bien connu, on veut jouer avec des mecs à 99 partout.
Bah tu joues avec le PSG, tu prends la meilleure équipe du monde.
Oh là
comme quoi
là.
Les rapports entre joueurs et éditeurs de jeux de foot, ça rappelle un peu parfois les rapports entre les éditeurs de jeux et la presse jeux vidéo. Tu mets des bonnes notes pour avoir de bons rapports.
Ouais, c'est un peu ça, oui, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, on a des bons. Non. Pas vraiment. Bref.
Donc finalement, le winner de la semaine, c'est vrai, c'est plus Konami que Michy.
Bon, Michy a eu un petit éclairage aussi parce que tout le monde, tous les observateurs se sont penchés sur
ce cas.
Marrant
parce que l'année d'avant, il avait fait un petit tweet aussi pour justement dire bravo.
Qui était bien modélisé.
Bravo Electronic Arts parce que je suis super bien modélisé pour une fois.
En disant qu'il manquait plus que le caleçon Bob l'éponge. C'était pour le win de la semaine. On va passer.
C'est le mec qui profite des sorties de jeux de foot chaque année pour faire son petit buzz et faire parler de lui un petit peu.
En tout cas, le mec était à Marseille. Il est parti à Chelsea.
Ouais.
Il aime les super équipes. Hein.
Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas trop Chelsea, toi. Ah, alors qu'il y a Antonio Conte qui entraîne. Mais bon.
Et qu'il y a surtout Kanté maintenant.
Ah oui, Kanté. Ouais. On va passer au fail hein, de cette semaine, mon cher Romain, qui lui est beaucoup moins drôle, finalement.
Bah, c'est la dure réalité du business et des affaires. On le sait que les joueurs, inspirés par leur licence préférée et aussi en manque de jeux d'un type particulier, font fréquemment leur propre version. Mmh. Et évidemment, avec des licences aussi fortes que celles qu'a Nintendo, bah, c'est normal que certains joueurs décident de créer leur version de fan de différents jeux. On sait par exemple, ça fait des dizaines d'années que des niveaux personnalisés de Mario sont créés sur Internet, sur les différents émulateurs. Il y a plein de versions, enfin bref. Et là, en l'occurrence, trois fois avec peu de d'écart de temps entre les sorties, bah, y a trois jeux de fans qui se sont fait supprimer par Nintendo. Il y a eu No Mario Sky, qui est une parodie de No Man's Sky qui utilisait Mario. Metroid AM2R, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui est un remake de Metroid 2. Et aussi Pokémon Uranium, qui est une version de Pokémon sur laquelle ont travaillé des développeurs amateurs pendant vraiment super longtemps. Et donc Nintendo a fait supprimer les DMCA, c'est Digital Millennium Copyright Act. Donc c'est là en référence à la loi américaine de protection de la propriété intellectuelle. Et donc ils ont fait supprimer ces trois jeux coup sur coup. Donc forcément, ça a fait râler les fans. Nintendo se justifie en disant qu'ils doivent protéger l'intégrité de leur propriété intellectuelle et de leur licence. Ce qui est logique, après...
Parce qu'à ce moment-là, tu ouvres les portes et tu dis, tiens, on va faire des pornos avec Mario et Peach, etc.
Ouais,
etc.
Bah après, enfin... est-ce qu'un petit jeu amateur qui n'est pas vendu... Parce qu'encore, si c'était des jeux que les gens cherchaient à vendre, là, c'est tout à fait légitime. Là, c'est des petites productions amateurs qui ont quand même une portée relativement limitée sur l'échelle du marché, hein, je veux dire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander leur suppression? Sachant que quand tu vois que certains éditeurs, eux, laisse couler, d'autres sont plus à cheval là-dessus, donc je ne sais pas trop. Donc, mais en tout cas, Nintendo ne va clairement pas arrêter de faire ça. D'ailleurs, on sait qu'ils ont lancé une offre d'emploi sur leur site américain pour justement quelqu'un qui serait chargé de surveiller et les données de piratage et aussi l'utilisation illégale des licences Nintendo. Donc ils vont clairement pas arrêter dans ce
et ben, ils ont du boulot
dans
hein.
cette direction. Oui. Et pour le coup,
tous les t-shirts, les machins,
pour le coup, ça
serait
un job à plein temps du mec.
Ah bah, il faudrait même une équipe de job à plein temps.
Bah après lui, en fait, ça serait presque une plus milice. Un lanceur d'alerte qu'autre chose qui ensuite transmettrait ses infos au service juridique
directement. À l'avocat.
Mais ce qui est marrant, c'est que cette situation là de jeux Nintendo supprimés, enfin de jeux de fans Nintendo supprimés, ça a ravivé un peu la rivalité Sega et Nintendo parce que le CM de Sonic qui est génial, hein, soit dit en passant, le mec il est au taquet sur tous les mèmes, enfin il fait des blagues en permanence.
Ses échanges avec Deus Ex, c'était rigolo, je crois.
Il est assez doué le mec, et donc il a vu, il a été mis au courant de cette situation et il est allé sur YouTube sur une vidéo de jeu Sonic amateur et il a mis en commentaire je reviens les gars, c'est l'heure du DMCA, tu vois, genre, et ensuite il a mis non je rigole, continuez de faire des super jeux fans de Sonic. Donc tu vois, il a communication positive en rebondissant sur ce qui s'est passé avec Nintendo.
Mais c'est un peu gonflé de la part de Sega.
Même si on sait que Sega a déjà fait supprimer des projets de fans aussi, mais bon, ils ont peut-être changé
leur Street of Rage qui avait l'air génial.
Et un Sonic aussi.
Ils ont peut-être changé leur fusil d'épaule.
Un Sonic. Tu sais, s'ils avaient fait le Sonic en plusieurs épisodes là, tu sais.
Oui,
c'était
Sonic,
un peu en réaction à justement
Sonic,
un gros buzz
4,
qu'il y avait
Sonic
eu sur
4,
un
épisode 2, enfin,
voilà, sur un fan-made Sonic qui prenait un peu les
mais
trucs
là ils ont recruté des fans pour faire le Sonic Mania, donc à ce moment-là on peut dire que ça va.
Mais je sais pas si vous vous souvenez, moi c'était un faux jeu
pour lancer la Dreamcast 2 aussi, hein, vous êtes au courant?
Oui bien sûr. Ouais. Shenmue 3 sort
bientôt. Sur Dreamcast on exclut.
Mais ce qui m'avait fait rigoler, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, un jeu de fans Sonic où en fait c'était pas des anneaux en or qu'ils récupéraient mais des onion rings, et plus il récupérait, plus il grossissait, et à la fin il n'arrivait plus à courir et t'étais obligé de mourir parce qu'il mourait genre d'un infarctus,
du crise cardiaque.
C'était plus ou moins ça, tu vois, plus t'avançais dans le niveau plus il grossissait, et au bout d'un moment il arrêtait de bouger et c'était fini.
C'est du pur génie. Non mais je vais aller voir ça juste après.
Ah bah, moi non plus je connaissais pas. C'était très drôle.
Bon, toujours est-il que c'était un beau petit fail de la part de Nintendo qui pourrait quand même essayer de soutenir plutôt que d'abolir.
Oh.
Bah quand même,
allons enfants.
Bah oui, c'est vrai. Bon, bref, ça c'était pour le win et le fail. Maintenant, on va passer au premier thème de
Vous avez remarqué que
podcast.
J'ai fait le win. Hein. Bah, je le répète, hein, juste comme ça.
Oui, on a remarqué. Oui.
To win.
Oh, not,
non, non, the, win, no. Needs, the win needs the fail. No, the, to win against the
to
fail.
To win against the fail.
Ok. Premier thème de ce podcast, le TGS 2016, donc, qui s'est tenu du 15 au 18 septembre dernier. Vous l'avez suivi, on l'imagine, sur Gameblog, puisque nous, on vous a fait des milliers de news, hein, je pense, environ par jour, sur tout ce qui a été montré là-bas, sur tout ce que Carole et Julien ont pu voir là-bas. Alors, c'était un carton en termes de visites, avec 271 224 visiteurs.
Mais ils ont battu le record de 2013.
C'est le record historique du salon, qui a connu un engouement assez fou. Et pour nous en parler, alors il n'y a pas de duplex hein, cette année, c'est un peu plus compliqué que prévu.
On a Jean-Pierre Raffarin, non, c'est ça?
Non.
Ah.
On a Carole et Julien.
Ah oui, c'est vrai.
Qui sont à Tokyo et qui vont vous expliquer dans cette petite vidéo, eh bien, tout ce qu'ils ont pu observer, toutes les tendances qui se sont dégagées pendant ce Tokyo Game Show, avec tous les jeux qui ont évidemment marqué leurs esprits. On se retrouve tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous.
Coucou.
J'espère que vous allez bien. Ça y est, le Tokyo Game Show 2016, Carole, ferme
déjà
ses portes. Alors, on va en faire le bilan, on va le dresser avec vous. Bon, Carole, je crois que c'est clair, c'est une année où la réalité virtuelle a été extrêmement présente et a presque volé la vedette, en tout cas, au reste des titres.
Bah, écoute, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir autant de réalité virtuelle. Alors, on savait qu'il allait y avoir tout un espace dédié à la VR. Et c'est vrai qu'on savait aussi qu'on allait pouvoir tester des jeux sur le PlayStation VR. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir que des expériences hors jeux vidéo étaient très présentes sur ce salon. Moi, par exemple, vous avez pu voir, j'ai été tester des expériences romantiques en réalité virtuelle. J'ai pu tester également des karaokés en réalité virtuelle sur le PlayStation VR, où je me suis retrouvée dans un bar à chat.
C'est beau.
Il n'y a pas que du jeu vidéo, justement, et la réalité virtuelle va plus loin. Et sur ce salon, on a pu le voir clairement. On a pu voir que le Japon était vraiment friand de réalité virtuelle. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le point important qu'on peut relever sur ce TGS.
Complètement. Alors après, il y avait, à mon sens aussi, une autre composante clé, c'était une édition dans laquelle il y avait énormément de gros jeux jouables, Yakuza 6, Final Fantasy 15, Kingdom Hearts 2.8,
Resident
Evil 7,
FF15,
ça je l'ai dit, Gran Turismo Sport,
FF12 aussi.
Persona 5, bon ça c'est normal, il sortait, mais bon, il y a énormément vraiment de gros jeux. En revanche, peut-être qu'il manquait d'une grosse annonce, de quelque chose qui retiendrait vraiment totalement l'attention. Last Guardian, vous le savez, il était là, mais il était là uniquement présent en vidéo sur le, ce qu'on appelle le show floor, sur le salon. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre chez Sony pour y jouer avec, bah, vous le savez, hein, vous avez mes impressions, un univers incroyable, pas de problème là-dessus, mais malheureusement, des angles de caméra qui sont pas du tout optimaux à si peu de temps de la sortie, une prise en main qui est assez pénible et qui sort malheureusement de l'expérience à de trop nombreux moments. J'en parlais avec certains confrères, on était quand même globalement unanimement d'accord. C'est compliqué à ce niveau-là parce qu'on rêverait d'adorer en fait, et quand ça marche bien, c'est génial. Mais bon, il y a des moments, ça passe assez mal. Il y a quelque chose aussi qui est très clair, c'est la domination sans partage sur le Tokyo Game Show de la PS4 et donc de Sony.
Ben, on avait un stand de Sony gigantesque, à défaut d'être beau, parce que c'était assez froid, toujours assez clinique.
Stands,
hein,
ouais. Ça manquait effectivement peut-être, hormis celui de Capcom.
Capcom et Touquet, avec un stand de Mafia 3 ouais, incroyable. D'ailleurs, on vous l'a montré hein, dans nos impressions, mais c'est vrai que l'absence de Microsoft était... présente.
Ouais, bah alors ça, oui, alors quand tu dis Microsoft, évidemment pas un stand, parce que ça fait de nombreuses années maintenant qu'ils ne sont plus là, mais
de la Xbox One. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Bon, après, est-ce une surprise? Non, parce qu'on le sait, hein, la Xbox One, ils en vendent quelques centaines par semaine, c'est ridicule.
Mais c'est vraiment le rêve de PlayStation voilà. Au Japon. Quoi.
Mais globalement, au-delà de Microsoft, moi je dirais même Nintendo, et Nintendo ils ne sont jamais présents au Tokyo Game Show, mais la 3DS et les jeux 3DS sont toujours là.
Ouais.
Là, il y en avait très très peu. Wii U, bon bah c'est fini. Et comme Nintendo, à l'heure où on est en train de se parler, n'a toujours rien annoncé officiellement sur la NX, bah donc rien sur la NX, du coup ça faisait un décalage
incroyable.
Extrêmement fort, une domination absolue, ce qui pose des questions et moi fait s'interroger un peu et fait presque peur d'une certaine manière, parce que si Sony, si la PlayStation n'a plus le vent en poupe à un moment donné, on sait d'ailleurs que les ventes ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'époque de la PS1 ou de la PS2, bah c'est clairement tout le marché des consoles de salon au Japon qui risquent de flancher total. Alors on sait que déjà elles ne sont pas totalement reluisantes, mais là en gros il n'y a plus qu'un acteur qui porte les éditeurs tiers, parce que ce n'est pas sur Nintendo qui se trouve,
ah non,
c'est clairement pas chez Microsoft. Bon. Alors la réalité virtuelle, on y revient une fois de plus, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai engouement autour du PlayStation VR. C'est très simple, hein, dès les 20 premières minutes de chaque ouverture de salon, de chaque journée, et ben c'était plein.
Avec une queue monumentale, et pas que devant le salon. D'ailleurs, vous avez fait une petite vidéo aussi là-dessus. Tu penses qu'il y a eu une affluence record cette année?
Il faudra attendre la dernière journée quand ils remettront leur rapport. Mais enfin, tous en tout cas, visuellement, toutes les personnes qui, comme moi, viennent chaque année depuis maintenant des dizaines d'années au Tokyo Game Show, on n'avait jamais vu ça, en tout cas, vraiment sur le premier jour. Et même le deuxième jour était très rempli. Après, il y a les journées ouvertes à tout le monde, où là, bah, c'est le raz-de-marée absolu. Donc ça ne change pas. Mais là, oui, là, c'est très, très dense. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne édition, avec vraiment beaucoup de beaux et gros jeux. Clairement, on n'est plus à un moment où on se dit, ouais, est-ce que le Japon, etc. Non, non, ils sont là, ils sont bel et bien revenus. Il y a de la qualité, très clairement, et de la quantité. Mais c'est vrai que peut-être qu'il manquait du titre.
Comme l'année dernière, mais je pense que c'est vraiment un salon qui, en tout cas, ce qui ressort, c'est que pour moi, et je pense que tu es d'accord avec moi, il y a une vraie identité sur le TGS.
Oui, c'est un salon qui ne ressemble pas aux autres.
Voilà, c'est pas la Gamescom. Moi, la Gamescom, je trouve que c'est un salon élégant. C'est pas le 3. Le 3, c'est voilà, le vrai salon.
C'est
avec
the place
les
to
annonces,
be. Hein.
Mais voilà, the place to be.
C'est le salon le plus important.
Voilà, c'est pas la Paris Games Week, qui est quand même un très très beau salon qui prend de plus
en plus
d'ampleur.
Ouais.
Voilà. Mais le TGS c'est vraiment particulier, peut-être parce qu'on est fou du Japon, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une vraie identité avec des babes. Vous avez pu voir les babes, moi je trouve que ça fait aussi partie du charme de l'univers.
Si on a décidé de refaire une vidéo sur les babes alors que ça faisait quelques années qu'on n'en faisait pas, c'est que vraiment, bon, cette année en plus il y en avait, mais genre
partout sur tous les stands,
qu'elles sont
de très belles,
bah oui, et que ça fait partie de l'identité de ce salon.
Oui.
Donc ça veut dire, si on n'en parle pas, c'est comme s'il y avait une partie de l'ADN du salon qu'on ne vous dirait pas, qu'on écarterait.
Ça fait partie clairement du truc.
Donc, si nous, reporters sur place, on ne vous parle pas de ce qu'il y a d'important, si on vous a dit qu'il y avait beaucoup d'affluence, si on vous a dit que la VR était très présente, bah, on se doit de vous dire, et donc de vous montrer, qu'il y a énormément de babes. Le but n'est évidemment pas ni de stigmatiser, ni de se moquer, ni de trouver quoi que ce soit. Je veux dire, ça fait partie de leur culture, ça fait partie
c'est
de l'ADN.
C'est pas du tout mal vu là-bas.
Du Tokyo Game Show, alors pas du tout.
C'est plutôt kawaii, c'est
oui,
plutôt
c'est,
mignon.
C'est mignon, c'est innocent, etc. C'est à l'image du Japon aussi, hein, qui parfois a des trucs extraordinairement décalés.
Quelle discipline, on a pu en faire les frais sur le salon. Hein. Pas évident, hein.
Il y a des
endroits où on ne pouvait même pas filmer.
Pour travailler, c'est un peu compliqué
parfois. C'est un salon très complexe.
On ne peut pas filmer. On doit faire la queue pendant des heures avec des tickets, avec des gens qui viennent nous suivre, qui regardent ce qu'on filme, comment on le filme, et que machin. Ok. Bon, mais en tout cas, moi je trouve que définitivement, depuis quelques années, le TGS a repris sa place dans l'échiquier des grands salons internationaux, et cette année, c'est aussi le cas. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Et on n'a pas dit ce qu'on avait préféré sur le salon.
Oui, alors qu'est-ce que tu as préféré?
Voilà, Mafia 3.
Mafia... D'accord.
Ben voilà. Alors,
t'as bien fait de
venir
au TGS.
Écoute, oui, pour le coup, c'est pas un jeu japonais.
Ouais.
On a assisté à une présentation, hein, dont je vous donnais mes impressions sur le stand de Touquet. Vraiment, j'ai été.
Mais en jeu japonais quand même, parce que.
Ben, en jeu japonais, je crois que j'ai adoré les expériences romantiques. J'ai trouvé ça vraiment sympa, assez saisissant, socialement parlant. J'ai trouvé.
La
que
sensation
c'était...
de présence.
Ouais, il y a une vraie sensation de présence, et j'ai trouvé ça marrant, et j'ai adoré aussi Godzilla. En réalité virtuelle, même si c'était très court, je vous en parle également sur Gameblog. J'ai trouvé que c'était bien fichu, quoi. C'est
bien
marrant,
fichu.
Même le karaoké dans le bar à chat, toutes ces petites expériences qui sont pas incroyables, c'est pas des triple A, mais je veux dire, je me suis éclatée. Je parle pas de Resident Evil, bien sûr, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire.
Biohazard 7.
Voilà, mais en tout cas, je crois que vraiment, j'ai eu quelques coups de cœur, mais je crois que là, ça m'a donné vraiment... En tout cas, ça a été la goutte d'eau pour me donner une envie terrible de jouer à Mafia 3.
C'est beau.
Et toi?
Moi, je dirais jeu... Alors, Nioh, oui, évidemment, mais ça fait quelques mois maintenant. J'ai vraiment accroché à ce jeu. Et donc là, ce que j'en ai vu encore une fois, c'était cool. C'est enfin, du même acabit. Persona 5, qui vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Alors certes, il est sorti pendant le salon. Il était présent là. Moi, je l'ai bien regardé. Et franchement, ça a l'air complètement dingue.
Il y a une communauté.
Et puis, Final Fantasy 15, moi, je maintiens. Je pense que c'est un FF très particulier qui risque de dérouter certains joueurs. Mais moi, j'y crois vraiment. Et puis, c'est pour une fois, contrairement à New York, Là, j'ai vraiment vu un sacré gap entre la version PS4 normale, qui est très belle hein, et qui a bien progressé, mais la version PS4 Pro, bah voilà, c'est la version auquel j'ai envie de jouer
très
clairement. Voilà, et ben écoutez, on se quitte. C'était nos impressions de ce Tokyo Game Show.
Merci de nous avoir suivis. Hein.
Très nombreux, une fois de plus. Salon. Voilà, il y a encore beaucoup d'impressions qui arrivent, je crois, en fil, parce qu'on vous en a fait des dizaines et des dizaines. Bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aussi, extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux. On vous fait un gros bisou à toutes et à tous. Merci de votre soutien, de votre énergie, parce que c'est un salon qui est aussi physiquement pas facile.
Ouais.
Il y a un gros décalage horaire, mais dans un sens qui n'est pas aisé. Il fait souvent très chaud. C'est très loin de Tokyo, le Macquarie Messe. Il faut compter une bonne heure et demie parfois.
On ne dort pas.
C'est le salon, mais qu'est-ce qu'on kiffe y être, évidemment, une fois de plus.
Yatta, on l'a fait.
Allez, bisous, ciao et à très bientôt. Et n'hésitez pas vous à nous dire aussi un petit peu qu'est-ce que vous avez préféré. Ciao les guys et les girls. Ciao.
Voilà, c'était pour les impressions de Julien et Carole, qui donc maintenant peuvent aller se reposer tranquillement.
Ouais, bonnes vacances hein.
Ouais, amusez-vous bien maintenant, puisque bah, ils ont quand même pas mal crapahuté. Et vous avez vu donc qu'il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Bah, déjà, la première tendance, ce qu'on peut tous se dire, c'est ce qu'on voyait en début d'année quand on a fait un podcast avec Rudy en se disant le jeu japonais est de retour, c'est confirmé.
Eh ben en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du RPG aussi, plus particulièrement, le jeu japonais,
oui,
c'est vrai. Mais justement, j'en parlais avec Rudy.
Parce qu'on disait, ça va être du jeu mobile. Tu sais, tous les ans, on dit, ouais, ça va être le festival du jeu mobile.
Ouais,
super,
non, on retrouve
génial.
Des vrais jeux entre guillemets, enfin des jeux plus traditionnels, on va dire, ouais. Sur nos consoles, etc. Et beaucoup de RPG déjà cette année. Hein. On sait qu'il y a Final Fantasy qui reste à sortir, qu'il y a Persona 5 qui vient de sortir et que juste avant lui, il y en a eu des tas d'autres. Il y a eu le nouveau Star Ocean. Il y a eu, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir d'ici
un
instant.
Dragon Quest 7 là qui vient de sortir en Occident sur 3DS.
Oui, alors ça, oui, ça c'est sorti.
Persona 5, dont Persona 5 vient de parler, mais tu es en train de dormir.
Non, j'étais en train de réfléchir.
Il faut pas que tu t'endormes dès maintenant.
Non, non,
à
non,
la
non,
limite
non.
Vers la fin de l'émission, non, peut-être, tu vois.
Je
quand tu seras plus là, quand Trace va te
surtout que l'excuse du jet lag,
ça commence
à faire.
Non, non, là c'était pas de l'endormissement, c'était de la réflexion.
D'accord. Pas de soucis, mais il y a aussi du.
Réfléchis pas trop.
Il y a du Tales of.
Sinon on perd quoi.
C'est vrai qu'il y a eu du Tales of qui a encore été montré. Il y a Atelier Firis que Carole
oui,
a pu voir, c'est un peu la
même
foire.
Même des RPG en réalité virtuelle.
Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, comme le disaient Julien et Carole, c'est vrai qu'au-delà même du RPG, c'était un TGS avec des gros jeux. Avec des gros jeux qui font plaisir,
bah,
qui font envie.
Le
Resident Evil 7.
Le premier dont on peut parler, évidemment, c'est Final Fantasy XV.
Oui, alors évidemment.
Qui a été reporté un petit peu avant le TGS pour arriver finalement en novembre.
Bon,
ouais. Et qui, à chaque fois qu'on le voit, commence vraiment à casser des bouches sévèrement. Et notamment, Julien a pu le voir sur PS4 Pro, ce qui avait déjà été. Ça n'avait pas été le cas.
Il n'était pas à New York.
Ouais, il n'était pas à New York. Donc là, il a pu le voir sur PS4 Pro, il a pu voir la différence vraiment. Qui saute aux yeux hein, avec une PS4 Pro sur une télé HDR. Est-ce que vous êtes hypés, messieurs, par ce Final Fantasy XV ?
Alors, moi, je vais te donner mon avis en tant que non-fan de Final Fantasy. Via les différentes démos de gameplay, les trailers, etc., c'est le premier épisode qui me fait vraiment envie. Je suis vachement attiré par ce FF15. J'ai bien envie d'y jouer. Donc oui, je te dirais que je suis hypé et j'étais déjà hypé avant le TGS. Et le fait de pouvoir...
Parce qu'il a bien trusté le TGS. Hein, il a eu beaucoup d'attention sur lui, sur la conférence PlayStation, ensuite sur le salon où... Effectivement, tout le monde a pu y jouer. Julien a pu voir une version à part. Ça a l'air quand même assez costaud. Et surtout que ça a l'air de s'être affiné depuis la version que Rudy a pu essayer en août. Ça a l'air de s'être encore affiné. Bon, on sait toujours pas ce que donnera la version Xbox One, mais en tout cas sur PS4, ça a l'air de tenir la route.
Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut le sortir.
On sait que sur Xbox One, ça sera un peu moins bien.
Oui,
ça,
mais on l'a pas vu.
En termes techniques, hein, évidemment.
On l'a pas vraiment vu tourner.
Ça a été dit clairement par
Tabata.
Par Hajime Tabata, exactement. Tu me demandes mon avis aussi ou
je sais pas, je crois qu'on a pas rien à foutre,
on s'en fout.
Ouais, vas-y, allez.
Non, moi je suis super hypé. Je sais pas. En fait, je trouve que dans FF15, il y a à la fois ce qu'on avait envie de retrouver qui existait déjà dans les Final Fantasy. Moi, je repense, tu sais, en fait, l'évolution qu'il y a eu, bon, alors avec tous les anciens en 2D, l'arrivée de la 3D, et puis après, comment ça a évolué entre le 7, le 8, le 8, le 9, le 10. Et je sais pas, j'avais été quand même pas mal déçu par FF13 parce que je trouve qu'il n'arrivait pas à être à la hauteur de son temps. Technologiquement, etc. Et puis même en termes d'idées, de nouveautés. Et ce que j'aime bien dans ce que je vois de FF15, c'est que quand je regarde le trailer, notamment le trailer du TGS, j'ai des petits frissons dans le dos, franchement, parce que l'histoire a l'air extrêmement développée. Tous les personnages parlent. Cette fois, c'est grand comme on voulait que ce soit grand.
Pour la première partie, la deuxième partie.
On va avoir des véhicules volants, on va retrouver des trucs comme ça. Et en même temps, il est totalement différent, enfin totalement unique en termes d'univers et d'ambiance, et ça c'est grâce au fait que finalement c'était un jeu Nomura qui partait un peu dans une direction différente, qui a été récupéré pour redevenir un FF15, etc. Et donc finalement ça lui donne son cachet, je trouve, et ça lui donne ça excite ma curiosité, justement, parce que à la fois je trouve que ça, le vrai FF tel que je voulais le voir évoluer, et en même temps il me surprend assez pour me hyper au-delà de tout ça, quoi. Ouais. Donc FF15, ouais, ça a l'air vraiment top, et je vais être très frustré de ne pas pouvoir y jouer sur PS4 Pro.
Mais si tu joueras sur PS4 Pro, t'inquiète
pas. Tu m'en achètes une ?
Oui, bien sûr.
Ah bah,
sans aucun problème. De mon côté, je peux vous dire que en ce qui me concerne, je suis très hypé, mais après avoir vu le film Préambule, en fait.
Kingsglaive,
ouais. J'ai eu l'occasion d'aller le voir avec Rudy, d'ailleurs, qui t'a pu en place. Il était comme
Mais t'as
un
trouvé ça bien ?
J'ai trouvé ça un peu long, mais ça m'a permis d'aborder l'univers qu'ils ont créé pour Final Fantasy XV.
C'est une préquelle, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est une préquelle, absolument. En fait, c'est tout ce qui se passe avant les événements de Final Fantasy XV. En gros, pourquoi Noctis va se retrouver prince déchu de sa nation, pourquoi il va se retrouver sur la route avec ses potes. Et on va découvrir des trucs dans ce film, justement, sur les raisons qui ont amené ça, avec qu'est-ce qui est arrivé à son père, qui était donc le roi d'un royaume prestigieux
et qui est le roi de la classe aussi. Il a juste trop de la gueule.
Il a la voix de Sean Bean aussi dans la version anglaise, ouais, donc mais bon,
non, mais franchement, il a
ça,
trop
c'est,
de la gueule.
C'est un indice sur ce qui va lui arriver. Bref, j'ai trouvé que ça permettait justement d'introduire vraiment cet univers assez spécial, parce que tu vois la plupart des trailers, tu vois Noctis qui arrive à se téléporter, tu comprends pas trop pourquoi. Grâce au film, t'arrives à savoir que il y a une magie qui traîne dans le royaume et ils ont des armes spécifiques. S'ils les lancent contre un mur, hop, ils peuvent se téléporter exactement là où l'arme a atterri. C'est ce genre de petits trucs comme ça. Et puis il y avait un pont avec l'univers global de Final Fantasy. Alors ça, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo avec Rudy pour expliquer un peu.
Il est pas trop la classe, regarde.
Si, il est super. Le papa, vraiment,
franchement, il est splendide.
Mais puis techniquement, les visages, c'est assez dingo. Mais ça permet de faire un pont avec l'univers global de Final Fantasy, parce que dans le film, on retrouve, alors je sais plus comment elle s'appelle en français, ni même en anglais, remarque. Diamond.
Ah, me demande pas de
Final Fantasy VII, la Diamond Arm, je crois. Ah. L'arme spéciale, un espèce de gros bétain que tu affrontais dans Final Fantasy VII.
Ah oui, les armes ultimes.
Voilà, l'arme ultime. Et bah, tu la retrouves dans Kingsglaive. Tu retrouves aussi les chevaliers de la table ronde. Tu retrouves un personnage qui, moi, me plaît beaucoup, qui s'appelle Ultros. C'est un énorme poulpe avec des grandes dents qui était dans Final Fantasy VI, qui était un élément comique de Final Fantasy VI. Il est aussi dans Kingsglaive. Et du coup, déjà, quand tu vois les crédits, tu vois que c'est écrit Yoshitaka Amano un peu partout. Donc, tu te dis qu'il a bossé un peu dessus. Et je me dis, il y a peut-être plus qu'un nouvel univers. Il y a peut-être aussi des vrais hommages et des vrais rapports. On avait vu, évidemment, les invocations de Ramu, de Shiva, et j'en oublie d'autres. Et ça me permet de me dire que ce sera peut-être pas une... comment dire, une foirade vis-à-vis de la licence de manière générale. Je pense qu'il va y avoir des très belles surprises sur Final Fantasy XV. Et en tout cas, l'univers tel qu'il a été présenté me plaît énormément.
Ouais.
Voilà.
Bon, c'est une des stars du TGS.
C'est la grosse star du TGS. Hein,
ouais,
il a tout volé, hein, je pense.
Oui,
y compris l'Orange du Marchand.
C'était écrit d'avance. Mais en même temps, c'était que, je veux dire, suite et fin d'une communication qui a commencé depuis très longtemps.
Absolument.
Et donc, pas de surprise, etc. Moi, je trouve que...
D'ailleurs,
excitant d'un salon, c'est aussi les nouveautés, quoi.
Ça a manqué de FF7 Remake, d'ailleurs, vous faites bien de le dire. On aurait pu s'attendre à quelque chose.
Pendant que je faisais le stream de la conf Sony, justement, beaucoup d'internautes parlaient de Kingdom Hearts 3, de FF7 Remake, etc. Mais il faut se dire que c'est logique que Square n'en parle pas encore.
Faut pas faire de l'ombre à FF15.
Voilà. Tout ce qui est Kingdom Hearts 3 ou FF7 Remake, je pense que ça viendra, certainement pas les deux en même temps, mais ça viendra qu'après la sortie de FF15. Ça sert à rien de voler la vedette, justement, et de faire de l'ombre au jeu qui est sur le point de sortir avec des jeux qui, eux, ne sont pas pour tout de suite. Donc ça aurait pas été cohérent.
Mais au-delà du simple giron de Square Enix, je parlais d'une manière générale, c'est vrai que pour voir un petit peu ce qu'il y avait de nouveau, il fallait justement suivre la conférence que tu as commentée, Romain, qui était la seule conférence de TGS, la conférence PlayStation.
Après, c'était des trucs sur scène. Ouais, pour Square Enix ou pour Konami
ouais.
Metal Gear Survive, 15 minutes de gameplay.
Temps, tout le monde va lui jeter la pierre.
Non,
hein,
mais c'est pas très
convaincant,
quand même.
Ça n'a pas l'air terrible, c'est sûr. Mais bon,
c'est juste pas convaincant.
En fait, il a le tort. Il a le tort de nombreux jeux, par exemple, ça me fait penser à Batman Arkham Origins ou encore Gears of War Judgment. C'est des jeux qui, en soi, enfin, en ce qui me concerne, ne sont pas mauvais. C'est juste qu'ils ont le tort de ne pas avoir été créés par les créateurs de la licence de base. Alors, tout de suite, les gens les mettent de côté en disant c'est forcément pourri parce qu'il y a
pris quoi comme exemple ? Judgment, c'est quoi ?
Gears of War Judgment ou Batman Arkham Origins ?
Ah oui,
qui
Origins.
Une préquelle, une
trilogie Arkham. Là, c'est du pur multi, là. Tu vois, c'est du multi-coop.
Je vais dire, je l'ai regardé la vidéo. C'est vrai que c'est pas particulièrement excitant, mais ça a pas l'air ultra mauvais non plus.
Ah ben, on le jugera sur pièce de toute manière. Hein.
On a vu bien plus mauvais que ça, quoi.
C'est sûr qu'il faut pas s'attendre à un jeu avec un scénario incroyable et une histoire à.
C'est un jeu opportuniste.
Voilà. C'est un jeu qui aurait dû être un DLC de Metal Gear.
Aurait pu être dans le mode multi de Phantom Pain. Mais c'est Konami qui se dit bon, comment on fait ? Là, tout le monde qui nous crache dessus et que tous les gens ont peur qu'on sorte plus de jeux
AAA
sur console et que c'est, voilà, qu'on fasse que du pachinko. Mais d'un côté, on n'a plus vraiment d'équipe pour développer un AAA. On a toute cette tonne d'assets de Metal Gear 5 parce qu'on a déjà remarqué pas mal de recyclage dans Metal Gear Survive. Donc. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça, c'est pas trop chiant, c'est plutôt rapide, ben voilà. On se retrouve avec ça. Après, ça sera peut-être une bonne expérience multijoueur, on n'en sait rien, parce que c'est vrai qu'il y a du multi depuis plusieurs années dans Metal Gear, mais une vraie campagne en coop comme ça, c'est plus ou moins nouveau. Après, Kojima qui va dire « Ouais, moi j'imagine pas de zombies dans Metal Gear », ça me fait un peu rigoler, parce que t'as quand même des créatures un peu space, y compris dans Metal Gear 5.
Mais pas de zombies.
Ouais, mais là, c'est même pas vraiment des zombies.
Ouais, mais il dit ça comme si ça n'aurait jamais pu arriver, alors qu'en fait, ça aurait peut-être pu.
C'est déjà permis des trucs un peu chelous dans
Metal
Gear.
Mais c'est normal, c'est Kojima.
Dans un mode multi, effectivement. Bon, on aura pu le faire.
Voilà, donc pour revenir à tes propos,
je trouve ça un peu facile. Je suis d'accord avec moi, c'est un peu facile de lui jeter la pierre. Voilà.
Et pour revenir à tes propos, donc, ça manquait beaucoup de nouveautés.
Oui, alors malgré tout.
Hormis FF15, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grosses stars, en fait.
Bah, moi, je trouve Resident Evil 7 quand même.
Ouais, alors Resident Evil 7 qui a eu le bonheur de mettre à jour sa démo.
Bah oui, je trouve qu'ils ont fait quand même un petit happening avec ça. Et puis, ils ont balancé un trailer que j'ai
bien
trouvé génial. Alors, pourquoi je l'ai trouvé génial, ce trailer ? Alors, d'abord, parce qu'il est bien dégueulasse, t'as raison.
Il est super malsain.
Et que la fin est tellement... mais horrible et malsaine. Ça m'a fait penser donc à Massacre à la tronçonneuse, comme tout le monde, hein, j'imagine. Ouais. Ce côté famille zarbi et malsaine. Même si c'est différent de ce qu'on a pu voir dans les différents Resident Evil, il y a un vrai côté Resident Evil qu'il n'y avait pas quand tu avais vu juste la démo au départ.
Absolument.
Et là, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que je crois que vous êtes...
C'est exactement ce qu'on a dit quand on a fait live. Pour moi, à l'E3, quand la démo est sortie, je l'ai faite. Je me suis dit, bon, c'est pas du tout un Resident.
Oui,
là,
tout le monde a dit, bon, voilà, ils ont essayé de refaire le coup de pitié. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, ça a laissé cette impression-là, parce qu'on ne voyait pas trop de connexion. Mais là, tout de suite, regarde, on voit à l'image un manoir. On voit des sursauts avec un personnage qui passe à travers un mur qui fait évidemment penser au chien du premier Resident Evil. Et au Nemesis également, t'as raison.
Ou à Mister X de Resident Evil 2.
Voilà. Et donc, je sais pas, il a revêtu sa robe de Resident Evil à l'occasion de ce TGS.
Pour moi, il avait déjà repris un peu des couleurs avec la démo lanterne, que d'ailleurs Carole a pu essayer au TGS, mais elle l'a essayé en VR, contrairement à moi à la Gamescom. Ouais. Je trouvais que la démo lanterne commençait déjà à aller dans le bon sens.
Ça, c'est très Resident Evil quand tu vois le flic aussi dans le garage là. Le zombie qui prend feu, tout ça. Fin...
Peut-être qu'au final, leur communication est bonne et qu'ils ont trouvé le bon truc.
Et encore une fois, un peu comme je disais avec Final Fantasy, c'est-à-dire que là. Quand même, après tous les Resident Evil qu'on s'est tapé là, qui étaient quand même pas bons, auxquels j'ai commencé à éventuellement penser à jouer avec Resident Evil 5, j'ai abandonné très vite, finalement j'ai même pas joué au 6 ni au 7, ça m'intéresse
le
pas.
Le 7 est pas encore sorti.
Là, le 5 et le 6, pardon. Et le 7, là j'ai très envie parce que justement, donc il revêt ses habits de Resident Evil d'une manière différente, et là il va y avoir la VR. Il va y avoir un nouveau point de vue, la vue subjective, forcément, un nouveau type d'ambiance. Donc il appelle en plus de ma corde sensible.
Puis il faudra voir ce que
il appelle aussi ma curiosité, quoi.
Il faudra voir justement ce qu'il a comme rapport avec la série de manière générale. On sait dans la démo avec Romain, on a vu quelque chose qui est un gros hélico avec le sigle d'Umbrella qui traîne sur une photo. Donc on peut imaginer que il s'est passé quelque chose dans cette ferme chez les Baker qui fait que ils sont devenus complètement détraqués et visiblement à la limite de l'immortalité, puisque quand même le papa il peut se prendre des fourges dans la gueule, il peut cramer, il en a rien à foutre. Donc ouais, ça a l'air plutôt pas mal, et ça faisait partie des stars évidemment aussi de ce TGS, hein. C'est presque une surprise, j'ai envie de dire.
Il y a un petit clin d'œil à la fin, hein, on est dans la famille et tu vois un personnage.
Et surtout que je trouve ça assez malin de faire une démo qui est quand même relativement limitée en contenu, ensuite de la mettre à jour et de rajouter un petit peu de trucs, et là vu ce qui se passe, ce qu'on a vu avec Plumeau dans la démo,
ils vont encore en rajouter.
Il y a de fortes chances qu'ils continuent de la mettre à jour et qu'on découvre encore d'autres.
C'est même
éléments.
Le message qui est à la fin, le voyage n'est pas terminé,
toutes les portes peuvent être ouvertes. Ouais.
Attends, moi j'ai connu The Story Goes On et on connaît la suite, ou plutôt on la connaît pas.
Mais ce qui est marrant aussi, c'est que cette démo ne sera pas dans le jeu complet. Donc elle a un vrai intérêt.
Ah, tu veux dire que rien de ce qui est dans la démo,
pas dans celle-ci,
ne fait partie du jeu.
Lanterne, donc le truc qu'on a pu essayer à la Gamescom.
Ça,
et
c'est un extrait du jeu.
Voilà, c'est un extrait du jeu dans lequel on incarne une jeune fille qui essaie d'échapper à une dame avec une lanterne, et c'est très flippant et c'est très efficace. Mais tout ce qui concerne la démo,
The Beginning Hour,
et sa mise à jour Crépuscule, pour l'instant, c'est absolument pas
prévu.
Attends,
et Lanterne.
C'était un extrait de jeu qui était présenté sur un salon. Comme
c'est pas une démo jouable, Lantern.
C'est un morceau du jeu.
Ouais, ouais,
qu'ils ont appelé Lantern.
Une presse, quoi, une presse jouable.
Oui, d'accord. Okay.
Mais ouais, et donc il y a des liens. On commence à sentir les liens avec la série, etc. Et même sur le salon en lui-même, ils avaient mis le paquet, quoi. La reproduction de la maison et tout, elle était encore plus réussie que celle de l'E3. Donc ouais, c'était vraiment un des gros jeux du salon. Et pour le coup, moi maintenant, mes attentes ont grimpé en flèche, quoi. Maintenant,
ça a trippé de volume niveau attente.
Et puis ce qui est cool, c'est qu'il arrive bientôt.
Et il était un peu plus beau en plus. Avec Plumeau, en jouant la démo.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
En jouant la démo, on s'est fait une réflexion. Il était plus net.
On s'est même demandé si on n'avait pas une PS4 Pro qui tournait à la rédac, c'est pour te dire.
Magie, truc de fou.
Un truc de ouf. Bon, on va passer aussi maintenant à une autre star, j'ai envie de dire, même si c'est pas un jeu, c'est un style de jeu, c'est la réalité virtuelle. Julien l'a dit là dans la vidéo, c'est que la réalité virtuelle était très très présente au Japon pour ce Tokyo Game Show, et que les gens fonçaient vers les stands. On a pu voir par exemple Carole qui a essayé Idolmaster, qui a essayé Joy Sound en VR.
Ah, ça te plaît, ça, hein?
Oui, mais même si l'idée d'être avec 4 idoles en train de danser, ça me paraît un peu chelou. Sur
scène, elles se mettent, je t'imagine bien dans un girls band plus haut.
Moi aussi, mais pas pour ça. Il y avait aussi Godzilla en VR qui a été essayé.
Ça doit être sympa. Je pense, c'est comme si tu regardais un film Godzilla, sauf que t'es à l'échelle humaine, tu vois, t'es au sol et tu assistes à la destruction, quoi.
En tout cas, elle avait l'air satisfaite, hein. Et il y a un japonais qui l'a essayé, qu'ils ont filmé aussi, vous pourrez trouver la news sur Gameblog, qui lui a juste été, ultra terrifié. Je pense qu'il a dû se chier dessus.
Mais je me demande, c'était à ça qu'il jouait ou c'était à Resident Evil ?
Non, je crois que c'était à Godzilla.
Hein. D'accord.
C'était à Godzilla. Et puis évidemment, elle a aussi pu essayer Kissed by the Baddest Bidder, qui est donc un espèce de. Donc c'est un automé game. C'est une espèce de jeu où on va essayer de tisser des relations avec un autre personnage virtuel. Et visiblement, Carole a été super troublée par cette expérience. Et je crois qu'ils se sont embrassés. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils se sont embrassés. Bref, il y a eu pas mal d'expériences réalité virtuelle là-bas, donc ça prouve que il y a quelque chose qui prend.
Il y avait même Space Channel 5. Julien et Carole l'ont pas essayé, mais en plus c'était plus un film interactif, on va dire, plutôt qu'une vraie démo de jeu. Mais un élément
j'avais pas suivi ça, mais ça c'est une idée géniale de faire Space Channel 5.
Space Channel 5 en VR, j'ai oublié de leur rappeler pour qu'ils aillent y jeter un œil, malheureusement. Enfin bref, un élément que j'ai noté pendant la conf Sony et qui était clairement présent sur le salon en lui-même et quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est la présentation de la réalité virtuelle pour le jeu, mais pas que. Par exemple, le casque, le PlayStation VR, effectivement, il y aura plein de jeux dessus. Mais là, pendant sa conf, Sony insistait sur le fait qu'on pourrait aussi regarder des clips musicaux spécialement faits pour, des sortes de films. Il y aura même des applications que vous pourrez utiliser dans votre casque. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen de capter l'attention du grand public, parce que les jeux, c'est une chose, mais montrer que tu peux faire plein d'autres choses avec cette technologie, être immergé dans ton film ou dans ta musique, ou même utiliser Twitter au milieu d'un champ de fleurs, je ne sais où. C'est, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent.
J'ai toujours rêvé de ça. Un champ de fleurs, Twitter. Quand t'es dans un champ de fleurs, mais non, mais tu dis, regarde, tiens, si j'envoyais un tweet.
Regarde, t'es chez toi, t'es dans ton salon lambda que tu vois à longueur de vie.
Ah, ton salon de Parisien, là, tout petit, minuscule,
tout moche, tout gris.
T'as envie de t'évader, mais quand même continuer à garder un œil sur tes applications, parce que je dis Twitter, mais ça sera pas compatible qu'avec ça. Je trouve que c'est une idée intéressante. Et donc, dans l'ensemble, la réalité virtuelle sert à plein de choses, va servir à plein de choses, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir au Tokyo Game Show en termes de divertissement.
Ouais, et puis bon, comme on disait, les Japonais se sont rués vers ça, ce qui a dû aider, à mon avis, pour ce record
de fréquentation.
Et je me demande si PlayStation n'est pas un des meilleurs ambassadeurs de la réalité virtuelle, en tout cas au Japon, et que c'est pas du Japon que va peut-être venir l'étincelle.
C'était le commentaire que je voulais faire, vraiment ça, c'est que c'est vrai que depuis des mois maintenant on parle de réalité virtuelle, on est en extase devant les différentes expériences qu'on a pu avoir avec Vive, etc. Mais on s'est toujours dit waouh, enfin ça coûte 800 €, il faut avoir un PC, etc. Et puis on se disait bon, bah la réalité virtuelle ça va prendre avec le PlayStation VR et les smartphones.
Et,
tu
on a
vois.
La,
et finalement c'est peut-être beaucoup plus avec le PlayStation VR qu'avec les smartphones, contrairement à ce que je pouvais penser, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de pubs dans les rues sur le Gear VR et ce genre de trucs. On voit que ça attise la curiosité, etc. Mais l'effet que ça a sur le public gamer va être incroyablement plus puissant que ça. Et donc le fait que ce soit un accessoire PlayStation pour la PS4 qui est un succès incroyable, que ça sorte à un prix raisonnable entre guillemets, hein, parce que évidemment tout est relatif, mais bon, quand on compare au casque pour PC, c'est quand même beaucoup moins cher, et que là, contrairement aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est pas cher. Je rappelle, hein, mon anniversaire, c'est le 10 octobre. C'est 3 jours avant la sortie du truc. Donc, n'hésitez pas. Hein, faites une cagnotte litchi. À quoi ?
On peut pas, c'est avant.
Oui, c'est vrai, tu
sors le 13. Alors que moi, c'est le 20, par exemple, le 20 octobre. avec le Vive, on s'est retrouvé avec beaucoup de trucs en early access, des jeux pas finis, des expériences. Voilà. Bon, avec la PS4 et le PlayStation VR, ça va être des jeux finis. Concret dans le commerce, vendu avec, prêt pour le lancement, d'autres qui arriveront à Noël, d'autres qui arriveront l'année prochaine,
dont Android Fit Robogolf.
Voilà, il y a un côté beaucoup plus concret et beaucoup plus réaliste pour faire entrer la réalité virtuelle chez le grand public, je trouve.
Et ils ont vraiment attrapé cette technologie à bras-le-corps, je trouve, plus que n'importe quel autre pays au monde. Parce que je m'explique, par exemple, tu vois, on disait tout le temps, ah, la réalité virtuelle, ça pourrait être le futur des salles d'arcade. Faire revenir les salles d'arcade. Et ben, au Japon, il y a déjà
des applications pour se croire aux applis dans les salles d'arcade.
Julien a déjà testé avec Carole la zone temporaire. Bon, c'est temporaire,
ah,
mais
oui,
la zone
le truc de Bandai Namco,
par Bandai Namco, où tu as plusieurs expériences différentes en réalité virtuelle.
Retrouvez-les en vidéo, vous allez voir, ils se sont bien
fait
dessus.
Je sais que Sega, dans certaines de ses salles d'arcade, a créé aussi des zones de réalité virtuelle pour essayer des trucs spécialement faits pour. Là, j'ai vu pendant tout le Tokyo Game Show, Palmer Luckey d'Oculus était à Tokyo. Et donc, il a essayé des choses sur le salon, mais il a aussi été dans les différentes salles d'arcade réalité virtuelle, celles que Julien et Carole ont pu essayer, ainsi que celles de Sega dont je vous parlais à l'instant. Donc, la réalité virtuelle enthousiasme vraiment les Japonais. Ça leur donne plein d'idées et ils essayent de l'appliquer au plus de choses possibles. Et c'est vrai qu'on va... Alors, c'est peut-être s'avancer un peu, mais je me dis qu'on va peut-être avoir le droit à un nouvel âge d'or. Un nouvel âge d'or
de l'arcade.
De l'arcade, ouais.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Parce que l'avantage de l'arcade, et là où l'arcade a tout son sens en réalité virtuelle, c'est que ça va nous permettre de faire des choses qu'on n'aura pas possibilité de faire chez nous.
Mais
donc,
d'avoir les accessoires géniaux, voilà, qui vont t'immerger dans des expériences ultra spécifiques.
Mais parce que
Par exemple, un vélo ou un planeur, et bah, tu rentreras vraiment dans le planeur et donc tu pourras le toucher, toucher la manette, il bougera, il y aura le vent en face de toi, ce genre de conneries. Quoi. Ouais. Et tu peux faire ça avec tout. Enfin, tout ce qu'on a vu dans les années 90 avec le simulateur de Namco, le ski, le jet ski, la moto, le machin, etc. Bah, tu pourras tout faire en réalité virtuelle, sauf que là, ce sera ultra crédible et ça sera avec peut-être le Sky VR, il s'appelle, c'est ça, le casque le plus perfectionné.
Star VR.
Star VR.
Le truc de Star Wars.
Qui est prévu d'ailleurs pour ça. En
parce
fait.
Que ça sera exactement, ça sera le même schéma que dans les années 80-90, au sens où on aura l'équipement chez nous. Donc oui, on pourra avoir un PlayStation VR, etc. Mais on n'aura pas forcément le, comment dire, la place ou le reste du matériel pour vivre toutes les expériences.
Et pas c'est forcément là... le PC qui va avec pour aussi. Faire les faire tourner. Et du coup, tu vas avoir une salle d'arcade.
Ils ont des jeux d'arcade.
Voilà, c'est ça. Sur... Et c'est là où les salles d'arcade peuvent reprendre. Tout
et
leur
c'est
sens,
au Japon
quoi.
Que ça peut vraiment, vraiment décoller.
Parce
que
tous, ils ont déjà commencé.
Tous ceux qui ont joué, par exemple, à un jeu en VR le savent très bien. Il y a un problème, c'est le déplacement. Et dans une salle d'arcade, tu peux faire ce qu'on voit en photo depuis et en vidéo depuis longtemps, c'est-à-dire l'espèce de tapis là, t'es accroché, t'es au milieu d'une structure, ce qui te permet de véritablement marcher et donc de pas avoir de différence.
Ou même te retrouver dans des espaces un peu ouverts avec un fond vert, comme on a pu voir avec une démonstratrice japonaise sur un jeu où elle est, elle affronte avec deux PS, un PS Move dans chaque main. Je sais pas si c'est des moves, c'est des touch.
Des HTC Touch.
Et on la voit sur un fond vert en train d'affronter un gros géant. Elle fait des gestes super classe et tout, comme si elle avait des épées dans la main, et ça passe super bien. Donc
moi c'est, c'était pas au Japon, mais l'expérience Ghostbusters que j'ai essayé aussi, c'est exactement le même style. Et et là j'ai vu dans Joypolis, donc c'est les salles Sega au Japon, ils ont une expérience réalité virtuelle multijoueur avec un peu dans le même style que Ghostbusters. Donc t'as un fusil, t'as des capteurs sur les fusils, tu peux jouer à plusieurs dans une petite pièce. C'est je pense que ils sont sur quelque chose là, ils ont une bonne une bonne idée.
Ouais. Ouais. Tous les cas, c'est vrai que c'est la star, on va dire, avec Final Fantasy XV, le PlayStation VR au Tokyo Game Show.
Ouais, tu penses tu peux aller tripoter des écolières sans te faire gauler, donc c'est génial.
Et Sony pousse à fond le truc, hein. On va vous diriger vers l'interview de Nicolas Doucet qui s'occupe du Playroom VR, une interview passionnante, hein, qui a été publiée il y a quelques jours sur Gameblog. On va peut-être la republier, je sais pas.
Le truc technique, Nicolas lui a l'avantage de, déjà de travailler d'une sur la réalité virtuelle et deux de travailler là-bas, au Japon. Donc lui il est vraiment dans l'intérieur et il peut voir tout l'enthousiasme et toutes les idées que les développeurs peuvent avoir autour de lui, et les gens qui se lamentent, on va dire, de la mise en retrait relative des développeurs japonais, ben là on est peut-être à l'aube d'un comeback fulgurant.
D'autant que ne l'oubliez pas, si vous avez suivi ce podcast sur le jeu vidéo japonais qu'on a fait maintenant
il y a quelques mois avec Rudy, hein, c'était en avril je crois, hein, il me semble,
avec Kaminos.
Avec ça c'était quand j'étais en vacances, donc c'était l'année dernière. C'était la dernière fois que j'étais en vacances, c'était un an.
Kaminos, de son vrai nom Axel Riffard, nous disait à quel point la scène indé japonaise est également hyper active sur le domaine de la réalité virtuelle et fait beaucoup d'expériences, etc. Mais ça aussi c'est un bon signe, parce que au niveau créativité, au niveau idée, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui émerge sur toutes les couches de développement, quoi, au Japon.
Et ce qui est aussi amusant, mais là c'est hors réalité virtuelle, c'est pour parler du jeu vidéo japonais d'une manière générale. Enfin, je sais pas si vous le percevez comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils se sont recentrés sur leur savoir-faire de base. Par exemple, à une époque, à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3, par exemple,
il fallait se concentrer sur la technologie qui était difficile à maîtriser à l'époque.
Non, mais pas que ça. Ils voyaient que aux États-Unis, enfin dans les studios occidentaux, ils faisaient des jeux de shoot à la troisième personne et que tout le monde adorait ça. Donc, il y a eu pas mal de studios qui ont essayé de faire des jeux de ce type-là, mais ils n'y arrivaient pas forcément. Là, maintenant, ils ont bien compris que les occidentaux aiment les RPG japonais, aiment les jeux vraiment spécifiques. Donc, maintenant, ils se concentrent là-dessus. Là, on a eu plein de nouveaux RPG. On a du beat Zemo à la japonaise, on
et
a
même Resident Evil qui est pourtant le plus novateur des Resident Evil et qui utilise une vue à la première personne, ce qui est un peu une espèce de symbole quand même du jeu occidental. Enfin, ça ne l'est plus, mais ça en était en tout cas. Et ben, ce Resident Evil là est beaucoup plus proche de l'ADN, je trouve, de Resident Evil que ne l'ont été le 5 et le 6.
Bah parce qu'ils essayent peut-être d'arrêter
de faire du jeu
occidental, même si je trouve toujours les gens un peu durs avec Resident 5. Avec le 6 j'ai pas aimé, mais le 5 je trouve que les gens sont un peu durs avec lui, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec le 4 qui est idolâtré, et le 5 est descendu alors qu'il avait quand même de bonnes choses.
Moi je l'aimais bien le 5,
moi aussi j'ai bien aimé le 5, mais bon, parce que je l'ai fait en coop, ça aide apparemment.
Alors, dans les autres expériences et jeux qu'on a pu voir là-bas, avant de on finira avec une déception ou une interrogation, en tout cas, on va peut-être parler un petit peu de Nioh, par exemple, qui lui aussi fait partie des gros jeux.
Qui est typiquement japonais, c'est mais vraiment.
Ça correspond à l'exemple que je donnais il y a 2 minutes.
Et qui est un gros jeu aussi. Ah ouais. Un gros et un vrai jeu japonais.
Et qui va nous mettre des fessées.
Et qu'on va adorer ici en Occident, comme on aimait à l'époque les jeux japonais.
Il y a un marché pour ça. Ça fait pas des ventes à la GTA. de dizaines de millions sur plusieurs années, mais ça a quand même son succès, quoi. Ça attire un public, et plutôt que de s'éloigner de ce qu'ils font bien, bah ils se concentrent sur des jeux qui sont purement à eux, et ça marche.
Ça marche sur tout le monde, surtout, c'est ça le truc. Bon, ça copie beaucoup Dark Souls quand même.
Mais oui, mais tout le monde adore Nioh. Enfin, t'as eu un commentaire négatif sur Nioh, voilà, c'est exactement ce qu'on
un
ce qu'on
jour
veut.
J'ai cru entendre quelqu'un dire c'est trop dur, mais c'était.
Mais il a été arrêté par la police immédiatement.
Ouais, il a été immédiatement menotté et emmené au poste. Mais ouais, Nioh, ça faisait partie des gros jeux qu'il y avait là-bas. Il y avait aussi. Et là, Romain, je vais te faire plaisir quand on va parler de ça, parce qu'il a explosé aux yeux du monde. C'est oui. Yakuza 6.
Bah, je suis. En fait, ça me fait plaisir au sens où les gens, enfin pas mal de gens, ont enfin vu ce que moi je vois depuis des années. La licence Yakuza, c'est une licence géniale qui est d'une richesse incroyable en termes de contenu, de mise en scène. C'est pas un vulgaire beat'em all où tu te balades
mais
dans la rue.
Mais qu'est-ce que c'est chiant à jouer.
Mais non, c'est pas
chiant.
Le
premier était chiant, mais ceux d'après, je crois qu'ils ont gagné.
C'est pas chiant. Et là, tu regardes. Bon, là, c'est une séquence de.
Bah oui, mais c'est que ça le jeu.
Mais non, c'est pas que ça.
Mais c'est ça et des cinématiques.
C'est un gros drama bien travaillé. Et t'as énormément d'activités annexes et de mini-jeux. Les personnages sont tous attachants.
Et alors, des mini-jeux passionnants.
Ah bah oui, il y a un simulateur.
Je vais démolir ton truc. Hein, vas-y, continue.
Oui, attends, Gilo, j'ai un truc pour t'empêcher de le démolir. Takeshi Kitano.
Ouais, c'est le seul qui sauve ce jeu.
Et même, il y a pas que lui, il y a plusieurs acteurs connus là dans ce.
Je dis ça, Gilo, normalement, il doit faire sa gueule.
Juste Kitano.
Non, mais là, regarde, tu regardes le trailer qui a été diffusé sur le stand Sega avec toutes les activités annexes. Là, dans Yakuza 6,
on va pouvoir jouer du banjo sur la plage et les gens t'applaudissent. Et
tu peux jouer du banjo sur la plage, tu peux recueillir des chats errants et ouvrir un 4 café.
Oh là là.
Tu peux chatter en ligne.
Non mais
Kazuma
Kiryu, il est en train de me faire penser à Vegeta là. D'un coup là, je me dis, on va le retrouver avec une tétine déguisée en soubrette, en train de passer l'aspirateur. Je sens que ça va finir comme
ça. Bah tu sais, il gère un orphelinat, Kazuma.
Ouais mais
Yakuza 3,
hein. Y a un moment où je sens qu'il va vraiment partir en couille.
Lesquels sont sortis et pas sortis chez nous?
En fait, chez nous, on n'a pas eu les spin-off.
On n'a pas eu Kenzan.
On n'a pas eu Kenzan et Ishin qui se passe dans le passé. On n'a pas eu la compile.
Ah oui, il y en a eu deux dans le passé, c'est vrai.
Ouais, on n'a pas eu la compile 1 et 2 HD entre guillemets qui était sortie sur PS3 et Wii U. Cela, on les a pas eu. Pour l'instant, on n'a pas eu le remake, mais le vrai remake du premier qui est sorti il y a quelques mois au Japon. Mm-hmm. Et
le 5, on l'a pas eu.
Si, le 5, on l'a eu en démat 3 ans après, je crois. Ah,
non, mais sinon, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 alors.
On a eu 1, 2, 3, 4, 5 plus Dead Souls. Ce qui était le qui était
Souls,
spin-off
le
avec les zombies.
Gotoku, ouais.
Ryuga Kotoku, c'est le titre.
Comment il s'appelle hein,
Dead Souls. Ouais. Et donc c'était avec les zombies. Et on n'a pas eu le 0, mais lui qui est annoncé, qui arrive en janvier prochain.
Voilà, et Yakuza 6, donc qui va être un vrai triple A, qui a l'air monstrueux, qui a l'air super bien fait,
super beau. En plus avec maintenant une vraie liberté, parce qu'avant quand tu rentrais dans un magasin par exemple, t'avais un temps de chargement. Là, tu t'es dans la rue. Tu vois un resto ou un truc, et bah tu rentres et sans transition, t'es déjà dans le resto. Il y a le moteur physique qui a été complètement retravaillé. Par exemple, si tu vois.
Il y aura plus cet aspect vieillot qu'ont eu tous les autres. Quoi.
Non, ils ont ajouté. Bon, c'est peut-être toujours un peu raide, mais par exemple, maintenant tu pourras sauter par-dessus un muret. Alors qu'avant, le muret c'était comme si c'était un mur de
invisible.
3 mètres de haut.
Exactement, mais c'était. Moi quand j'ai essayé de jouer à Yakuza à partir du 3. Et j'ai dit non.
Et bah là dans le 6 ça sera possible. Tu vois regarde par exemple là,
tu peux même passer entre les murs. C'est incroyable.
Ça sera beaucoup plus
tu
beaucoup
peux grimper des échelles. Mais c'est ouf. Tu soulèves des plaques d'égout
qui... Comme dans le Clean Thriller de Michael
Jackson. Là, tu vois, tu sautes d'un toit. Avant si t'étais sur un immeuble, bah t'avais un temps de charge.
Mais en vrai c'est Sleeping Dogs version fait au Japon quoi.
Bah c'est. Et même avec un environnement plus.
Bon enfin t'avais comment il bouge quand même.
Et
je vais pas dire les animations
ce troll.
Non mais et par exemple un truc tout bête, si tu te balades dans la rue et tu vois des mecs en train d'essayer de braquer une supérette, et bah tu rentres, tu les empêches et là c'est baston dans la supérette, tu peux péter tous les rayons. Enfin
ça sort pas de ça, on tourne pas dehors pour
non,
les affronter.
Non, tu restes dans le truc. Et après tu te fais engueuler par le gérant de la supérette. Enfin c'est
Alors tu l'as sauvé la vie.
Enfin non,
c'est
si tu si, non non si tu le sauves, ouais, mais... il te fait pas chier. Par contre, si tu commences une baston à l'extérieur et que tu rentres dans la supérette pour te battre alors que là tu vois ça n'avait rien à voir, là par contre tu vas te faire engueuler.
Mais les braqueurs
à la
ils sont
d'arcade, t'as une version complète de Virtua Fighter 5 qui est jouable.
Les braqueurs ils sont cinglés, ils connaissent Kazuma Kiryu, ils savent qu'il faut pas
l'influence de Shenmue, elle est partout dans Yakuza. De toute façon il y a beaucoup de développeurs de la série Yakuza qui avaient travaillé à l'époque sur Shenmue, dont Nagoshi.
Pourquoi on voit pas là pour nos premiums le moment où Kazuma Kiryu joue du banjo à la plage? C'est peut-être le plus beau moment de toutes les activités.
On le voit un tout petit peu. Et là, dans celui-là, tu devras t'occuper d'un bébé un moment aussi, parce que ça, c'est lié à l'intrigue.
Et le faire se marrer le plus possible, c'est
ouais,
ça.
Ouais, mais en fait, Yakuza, c'est vraiment génial. Et pour les amoureux du Japon, c'est une vraie plongée dans le Japon. C'est un jeu qui est vraiment dépaysant. Par contre, ce qui l'empêchera toujours de fonctionner vraiment hors du Japon et hors des pays.
T'attendais que je le dise parce que c'est mauvais.
Non, c'est la traduction.
Ouais.
Parce que c'est un jeu qui a énormément de dialogue et beaucoup de texte. Et quand il est sorti chez nous, c'est juste avec des sous-titres en anglais. Et ça, bah pour beaucoup de joueurs, c'est toujours rédhibitoire. Alors là, peut-être que comme au TGS, il a quand même pas mal fait parler de lui, compris chez les joueurs qui ne sont pas fans de la série.
Il y a un rayonnement pour ce Yakuza qui est monstrueux par rapport au précédent.
Peut-être que ça va décider Sega de le traduire cette fois, je sais pas.
Monstrueux.
Non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Tu peux voir.
Ma mère m'a téléphoné, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Yakuza 6? Ça a l'air dingo. Alors j'étais très étonné.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que t'as été investi de l'esprit de Julien là. Genre quand il a décidé de faire son contradicteur, même quand il le pense pas.
Ouais, j'ai l'imaginer ta maman t'appelait vraiment pour ça, si tu veux. Là, j'imagine vraiment la scène. Je me dis quoi?
Non, mais tu vois, moi,
je te vois
avec
l'air hébété au téléphone, quoi. Comment,
ce que j'avais adoré dans Yakuza 6, c'était le résumé des deux épisodes qu'il y avait avant. Parce que là, t'avais.
Yakuza 3, tu veux dire.
Dans Yakuza 3, j'ai dit quoi ?
6.
Ah pardon. Dans Yakuza 3, quand j'ai essayé d'y jouer, tu pouvais mettre le résumé des deux premiers épisodes. Et là, tu te disais, putain, l'univers développé est tellement génial, ça a trop de la gueule, on se croirait dans un film de Kitano et tout. Et j'étais là, ah, vite, je vais commencer. Et j'ai commencé à jouer et là, je me suis heurté à tous ces murs invisibles dont tu parlais.
Bah là, ils ne sont plus.
Bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Là, tu sais quoi ? Je vais te faire plaisir, je retire tout ce que j'ai dit. Donc ça n'a servi à rien.
Voilà. Bon, ça c'est pour les jeux.
Tu m'as juste fait chier pour m'empêcher de parler.
Exactement.
Voilà.
Ça c'est pour les jeux typiquement japonais qui ont eu la chance d'être vus à l'extérieur par l'Occident. Il y en a un, mine de rien, qui lui par contre soulève toujours des inquiétudes, c'est The Last Guardian.
Oui.
Alors là, bon. Alors Julien, déjà à l'E3, il était pas chaud.
Alors que c'est quelqu'un qui de base était super
enthousiaste.
Mais c'est pour ça qu'il est peut-être tombé de haut aussi.
Oui, c'est peut-être ça. Mais j'ai vu Polygon, donc le site américain, eux ils ont carrément mis en accroche. On a eu l'impression de jouer un jeu PS2.
Il faut dire que la vidéo de gameplay qui a été diffusée là durant le TGS, qui dure environ 18 minutes, hein, si je ne m'abuse, elle n'est pas très rassurante. Par rapport à certains éléments du jeu, et
des petits bugs de collision,
des enchevêtrements qu'on voit plus depuis des milliers d'années.
Bah, c'est un jeu.
Des caméras qui ont l'air, mais vraiment.
Quand ils montent les escaliers là.
Après Shadow of the Colossus, c'était un grand jeu avec des caméras de merde, donc tout est possible.
Pas comme ça.
Ah, s'il y avait des problèmes de caméra.
C'était sur PS2, mec.
Voilà. Il y a un truc que j'ai jamais compris en fait, c'est pourquoi Ico, qui avait des caméras fixes et qu'il faisait très bien et ça marchait.
Parce que ça correspondait pas à Shadow.
Ouais, mais de manière idéale,
la caméra c'était pas mal.
Ouais, mais il pouvait mettre des caméras, on va dire automatiques, quoi.
Attends,
des caméras.
C'est la démo de gameplay. Imposé.
Oui, regarde, il est bloqué.
Absolument.
Ils ont diffusé une vidéo où le personnage bug.
Ouais, c'est nous. Non, mais c'est pas très rassurant vis-à-vis de ce jeu qui a l'air pourtant tout mignon.
Ah, c'est Julien qui joue là, c'est ça?
Qui a l'air d'avoir.
Ah, mais alors le problème c'est que c'est Julien qui joue, quoi.
Ah oui.
Ah bah forcément.
Ah ok, bon, je retire tout ce que j'ai dit.
Non,
en fait,
déjà, il y a un truc qu'il faut savoir. Peut-être les gens ne le savent pas.
Ouais.
Julien touche un ordinateur, il a un virus.
Ouais, c'est vrai.
Son ordinateur.
Julien te demande l'heure, ta montre s'arrête.
Ouais, Julien touche une console, elle crame.
Exactement.
Ouais.
Attends. Julien, tu lui prêtes ta Xbox, elle fait de la poussière jaune,
non,
ou rouge.
Violette sur le parquet, ouais.
Et gris son parquet.
Ouais.
Donc, on sait pas ce qui s'est passé avec
The
Garden.
Julien, tu laisses ton sandwich sur une table, il est disparu. Il y a plus de sandwich, tu sais pas ce qui s'est passé. Il se passe des trucs bizarres avec Julien. Je pense qu'on devrait. Si j'avais la musique de X-Files, je l'aurais mise tout de suite.
Des fois, tu mets un coca dans ton frigo.
Ah, c'est le moment où on balance.
Là, c'est le podcast qui balance.
Voilà, exactement. On va s'arrêter là. Parce que
Julien, comment il disait, Michel Drucker.
Si
ouais.
Tu le regardes,
on t'enverra des fleurs.
Bref, The Last Guardian ne nous rassure pas spécialement, même si j'ai toujours envie d'y croire.
Non, mais là, maintenant qu'on sait que c'est Julien qui a joué, c'est...
Oui, ça va un peu mieux, mais bon.
Un espoir subsiste.
Non, mais l'univers, moi, me plaît énormément, l'univers de The Last Guardian.
Bah, évidemment.
Mais c'est vrai que quand tu regardes le jeu tourné, tu sens que le développement a commencé il y a très très longtemps. Mmh. Et contrairement à d'autres jeux qui, dont le développement est très long et ils recommencent à zéro plusieurs fois, là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment recommencé à zéro, quoi. Ils ont gardé les bases qu'ils avaient établies au début du développement et c'est juste qu'ils ont changé de console en cours de route.
Et puis, est-ce qu'il y a un acteur japonais qui est connu et qui a été modélisé dans ce jeu? Non. Donc on préfère à tous jouer à Yakuza 6.
Non, okay. Par contre, je pense que Tricot va être doublé par
par Bruce Willis.
Non, par la voix française de Bruce Willis. Vous imaginez un petit peu.
Par la voix française d'Eddie Murphy.
Eddie Murphy. Hé
hey mec, tu veux que je t'aide à franchir le pont?
Tu vas monter sur moi. Hein.
Bon, bref, ça c'était pour l'incertitude, l'Asgardian qui sortira en novembre, c'est ça?
Ça on sait pas.
Si, il sortira.
Non,
il sortira.
C'est décembre.
Décembre, début décembre.
Ça a été repoussé de quelques semaines.
Oh là là, début décembre.
Mais fait... attends qu'ils soient encore repoussés peut-être. Non,
attends, mais ils ont la pression parce que rappelez-vous, quand il a fait son grand comeback à l'E3 l'année dernière, ils avaient bien insisté sur le 2016.
Et cette fois, c'est bon.
Là, ils sont à début décembre, ça leur laisse pas beaucoup de marge pour respecter ce qu'ils avaient dit.
Mais tu sais pourquoi ils l'ont repoussé?
Non.
Mais ils ont vu Julien jouer. Ils se sont dit merde,
c'est pas possible.
C'est vachement plus bugué que ce qu'on croyait. Ils ont fait, oh là, alerte, il y avait Shuei Yoshida derrière l'épaule de Julien, comme ça il est complètement décomposé.
Il y a Marc Cerny qui s'est jeté, non pas Marc Cerny, Fumito Ueda qui s'est jeté par la fenêtre.
Voilà.
Bon, tout ça pour dire qu'il y avait donc pas mal de jeux japonais, pas mal de Tokyo Game Show, de jeux japonais importants.
Attends, il y en avait
Tokyo
partout.
Game Show.
Il y en avait partout.
Pas mal de jeux importants. Il y en avait aussi un qui nous a déçus, mais il y avait aussi du jeu étranger, occidental, Gaijin, j'ai envie de dire. Il y avait du Mafia 3 et du Horizon qui étaient quand même présents là-bas.
Grosse présence de Mafia 3.
Énorme présence de Mafia 3. Ouais. Ils ont vraiment envie de le vendre. Hein.
Ils ont mis le paquet à tous les stands.
Mais alors, allez lire d'ailleurs, chers amis, les impressions de Camille. Il a été totalement bluffé par le jeu. Hein.
Ouais.
Apparemment, c'est du lourd, Mafia 3. C'est
et pourtant, lourd. Il n'y a pas de. Romain.
D'acteur japonais.
Il n'y a
connu.
Pas de.
C'est du lourd.
Il a été épaté par Mafia 3 alors que pourtant il n'y
a pas de chevalier de dragon.
Ah là, j'attendais ton
troll. Ah là, faut te lancer même sur tes propres vannes.
Ouais. En fait, tu m'as épuisé en fait. tu m'as inspiré mon mojo, j'ai plus rien.
Bon, on va revenir enfin sur l'absence.
Non, mais c'est
grosse absence de ce Tokyo Game Show.
Attends, juste une
non, tu me fais le coup toutes les semaines, là j'en ai marre. Et après, tu vas me dire oui, t'as été long pour le podcast.
Attends, je te demande l'autorisation. Hein,
ouais,
je fais un petit signe.
Tu demandes l'autorisation, puis après, tu. Hop, 49.3, bonjour, hop, j'arrive. Non, pas cette fois, monsieur, tu voulais dire quoi?
Bah, je te le dirai pas. Non, mais je voulais dire que c'était pas une nouveauté qu'il y a des jeux occidentaux sur le TGS. Il y en a
toujours.
Ouais,
mais c'est bizarre qu'ils avaient plus de place.
Mais par
fait.
Contre, c'est vrai que le stand Mafia 3 était particulièrement imposant pour
un salon japonais.
Pour un salon japonais.
Exact. Mais le gros absent
et puis, non,
de ce TGS, c'était quand même la NX. Et Nintendo, ils étaient où?
Alors attends.
Chose. Historiquement, Nintendo est jamais vraiment, sauf via des éditeurs tiers, Nintendo est jamais directement.
Oui, mais là, il y a quelques jeux 3DS par-ci par-là. Il y a pas de jeu Wii U.
Par contre, c'est vrai que la Wiimote avait été dévoilée pour la première fois pendant une conférence organisée en marge du TGS.
En marge, hein, toujours.
Voilà, mais non, mais
comme,
là, on est à,
comme
on,
la console. Imaginez. Cette année,
oui, c'est pour ça que cette année, à moins de 200 jours. De la supposée sortie de la NX qui devrait être en mars 2017,
qui serait l'écart 200 jours sortie le plus court de l'histoire.
C'est vous avez pas peur vous?
Non,
c'est vrai.
Mais par contre j'étais un petit peu déçu parce que j'imaginais vraiment qu'ils allaient faire leur effectivement en marge du TGS. D'ailleurs certains analystes le disaient, mais je comprends pas, d'habitude les analystes se trompent jamais.
Ouais, Red Dead Redemption 2 d'ailleurs qu'on a pu voir il y a pas très longtemps. On l'a pas vu.
Donc on parlait d'une annonce en marge du Tokyo Game Show parce que c'est le moment où les projecteurs sont au Japon et tout ça, et que c'était certainement un bon moment de communication. Bah non.
Faut croire
je pense qu'ils vont faire un Nintendo Direct en nous prévenant deux jours avant.
Ouais. Ou la veille. Hein,
ouais, la veille.
Pas un Nintendo Direct.
Non, je sais pas comment ils vont l'annoncer du coup.
Mais je sais pas, Apple fait sa prochaine conférence quand? Parce que à la limite ils peuvent en profiter. Hein, maintenant ils peuvent squatter chez Apple. Donc,
ah bah c'est pas tout de suite. Hein.
Ah oui, bon bah tant pis.
Mais
donc
oui,
effectivement
faut,
pour une console qui sort au printemps là.
Bah, surtout que là on est comment dire, on était début septembre, enfin mi-septembre, où la vague des grosses sorties n'avait pas encore commencé, donc tu pouvais encore avoir une bonne visibilité. Mais alors après quand tous les gros jeux de la fin d'année vont sortir, ça va quand même. Bon, c'est Nintendo qui annonce une nouvelle console, donc forcément ils auront quand même de.
Ouais, mais
ils font quand
même qu'ils sont en position de force et qui peuvent monopoliser l'attention sans avoir besoin du Tokyo Game Show finalement. Sans avoir besoin que les caméras justement soient braquées sur le Japon, ils se disent non mais nous on va le faire quand on veut. Maintenant regardez, on annonce Super Mario Run, tout le monde est content, c'est la fête.
Ouais,
Pokémon
regarde...
Go, c'est la fête.
Ouais, mais regarde,
Zelda
annoncé...
on devient le jeu du salon, il y a pas de problème, on vole tous les shows.
Alors
voilà,
Zelda le jeu du salon,
bah
c'est discutable,
c'est comme ça, c'est
Super
la vie.
Mario... vas-y dis-le, c'était quoi ton jeu du salon à toi?
À l'E3.
À l'E3, je me souviens.
Et bah voilà. Et bah voilà, Romain, c'est pour ça, c'est parce que c'était Zelda. T'as pas voulu te l'admettre.
Bon, bah dis-le, mon jeu du salon, c'est Zelda.
Mon jeu du salon, c'est pas Zelda. Voilà, mais le. Super Mario Run, c'est vrai, ils ont fait énormément parler, mais c'était une conférence de presse Apple où t'avais des médias venus du monde entier qui étaient présents dans la salle. T'auras pas ce rayonnement-là avec un Nintendo Direct.
Et pourquoi pas quelque chose à la Paris Games Week, du coup?
Ah bah pour... De quoi? Genre l'annonce de la NX à la Paris Games
Week? Pourquoi pas Paris, c'est prestigieux.
Ah ouais, non mais attends, c'est... Ah si, c'est con.
Mais non, pourquoi pas? Après tout, non, Miyamoto à Paris au pied de la Tour Eiffel.
Ça va être génial. Si ça se passe vraiment, Poufy pourra prendre ce petit morceau de vidéo que je viens de
avec
faire.
Avec Robert Downey Jr. qui vient
et se foutre
la Tour
de ma
Eiffel
gueule jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est génial.
Non, mais moi je voudrais lancer un appel solennel. Visiblement, quelqu'un a kidnappé Julo et l'a remplacé par un double démoniaque. Rendez-nous le vrai Julo là. Il est unleashed.
Ah bon?
Unleash the Beast. Bon. Mais pour la NX, quand? Voilà, maintenant c'est ça la vraie question.
Bah, en tout cas, moi, tout ça pour dire qu'on est déçus et choqués de ne pas l'avoir vu pendant cette semaine, quoi. Tout bêtement.
Bah, le truc, c'est que.
Mais vraiment déçus et choqués.
Là, ils ont atteint un niveau de hype et d'attente qui est quand même colossal. Mais cette hype-là, elle ne peut pas monter éternellement. Au bout d'un moment, la chute se déclenche. Et après, plus tu attends. Plus les gens se disent « Ah, ça va être un truc de ouf », plus ils en attendent. Et donc, plus tu attends, plus tu risques de potentiellement te décevoir. Donc, faudrait que Nintendo fasse quelque chose, quoi. À moins, et là encore, c'est une annonce qui n'a pas été faite, à moins qu'ils retardent le lancement. Ça, on n'en sait rien, mais...
Mais tu sais qu'il y a des amiibo qui ont été datés très vite et retirés du site français de Nintendo, les amiibo Breath of the Wild.
Par le site officiel?
Ouais, absolument. Ah. Daté au 4 mars 2017. Ah. Ça a été retiré immédiatement. Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à les prendre en screen. Donc 4 mars 2017, ce serait peut-être la sortie de Breath of the Wild et du coup
de la NX.
De la NX. Donc là, on est quand même un nombre de jours qui est très restreint.
Okay. Alors, dans ce cas-là, ils ont besoin de l'annoncer vraiment vite.
Ouais. Ah oui. Et puis nous aussi, on a besoin qu'ils l'annoncent vite. Hein. Maintenant, on en a marre. On fait toutes les semaines, on en parle et il se passe jamais rien. Donc il y a un moment où il faudrait peut-être.
Il va se passer ce qui se passe d'habitude dans ces cas-là. On enregistre le podcast maintenant.
Ouais. Elle est annoncée.
Mais elle est annoncée. Voilà.
Et Traz, il va arriver
après,
là dans 2 minutes.
Et ce podcast, on passe pour des cons pendant une heure et demie, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça bon. Peut nous arriver, effectivement. Bon, enfin bon. Votre avis donc, sur ce TGS, du coup, messieurs? Si vous aviez un avis global.
Bah, moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. J'aime bien que les développeurs japonais ne cherchent pas à faire des choses qu'ils ne savent pas faire et qu'ils se concentrent sur leur talent. Et ça nous propose des expériences convaincantes pour les mois, voire les années à venir. Après, très content aussi de voir la présence de la réalité virtuelle. Je suis content de voir que les développeurs japonais s'y intéressent. Et non seulement ils s'y intéressent, mais ils ont aussi beaucoup d'idées. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont nous préparer en réalité virtuelle. Et Yakuza 6, génial.
Et toi, Julo?
J'étais intéressé de comprendre ce que tu faisais. J'ai compris, ça y est.
Ouais.
Moi, je suis d'accord avec Romain. Non, c'est très juste ce qu'il vient de dire. Par contre... Il y a un moment où
non,
faut
mais
pas plus enflammer.
Ce regain du jeu japonais.
Oui,
là,
mais faut, voilà,
ça y est, on y est.
Non,
là.
Mais faut pas. Non, enfin, faut pas exagérer la performance non plus. On est encore très très loin.
On y est.
D'une certaine époque où le Japon. Tu veux que je dise on y est. Ouais, on y est. Non, on y est pas encore. Mais je trouve qu'on est sur le tremplin, quoi. Voilà, on va dire.
Ça pourrait venir via la réalité.
C'était quand même pas dingo en termes d'annonces, de trucs fous.
Non, il
n'y
a pas eu d'annonce Tony Truant.
Si, il y a eu la date de Nier Automata, messieurs. La date de Nier Automata.
Ah oui, tiens, ma mère m'a dit aussi.
La japonaise.
La date de Nioh aussi. Enfin, il y a eu pas mal de
dates. Oui,
il
y a eu des dates.
Mais, oui,
des figues aussi.
C'est vrai qu'on aurait bien aimé que pendant la conférence Sony, par exemple,
il se passe un truc.
Qu'il y ait un développeur star qui arrive et qui nous dise voilà, nous, voilà ce sur quoi on travaille depuis un an. Et bam, il balance un trailer de ouf pour un jeu dont personne n'avait jamais entendu parler.
On a eu ça. Mais avec Musou Stars.
Ouais, Musou Stars, c'est quand même en termes d'envergure, c'est quand même autre chose. Ça va très bien se vendre au Japon. Ça sera son petit succès
en France,
ici.
Ouais.
Mais ça, c'est pas l'annonce incroyable à laquelle tout le monde ne s'attendait pas, quoi.
Voilà. Bon. Donc n'exagérons pas la performance, mais on va dire, je trouve que c'est très encourageant quand même.
Bon, et ben très bien. Ben écoutez, maintenant, il y a un invité mystère qui vient d'arriver dans la pièce et qui va donc. Eh bien Romain, tu vas
nous quitter. Est-ce que je drop the mic?
Bah, tu vas être obligé de laisser le micro à Traz.
C'est
hein,
vrai
puisque...
que j'aurais plus dû me mettre là.
Ouais,
ça aurait été
effectivement,
plus
si vous êtes premium, vous pouvez voir que le placement n'a pas été réfléchi. Salut, c'est la faute de Julo.
Salut les amis, à la prochaine. Zelda
ciao,
n'était
Romain.
Pas le jeu du salon.
Oh Romain. Et c'est Traz donc qu'on accueille parce que pour ce deuxième partie de podcast, Salut Traz.
Bonjour, ça va, tout le monde va bien.
Et je peux rester?
Ouais, parle bien dans le micro, hein. Nous fais pas une alarme.
Voilà. Chier, comment ça me saoulait, franchement. Merde, je me casse.
C'est parti. Nous allons vous parler, eh bien, de PES 2017 et de FIFA, parce que PES 2017, ça y est, il est sorti. On a même fait le test. On a même fait un gros live avec Julo au moment du test. Voilà. Et FIFA, la démo est arrivée. La version EA Access arrive dans quelques jours. Le jeu lui-même sortira le 29 septembre. Et on peut déjà, messieurs, dresser des comparatifs, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Tout à fait, Jean-Pierre.
Bon, très bien. Eh bien, si on devait commencer ces comparatifs de PES et FIFA, je vais vous demander chacun votre avis. Par exemple, lequel vous préférez à l'heure actuelle, Julo?
C'est très difficile à dire.
J'ai refait exactement la même réponse, en fait.
Non, mais j'ai... Non, toi, c'est pas vrai. Bah, en fait, t'aurais menti, alors?
Non, j'ai pas menti, mais.
Ah bon? T'as eu l'occasion d'y jouer un peu plus là, ouais, peut-être, c'est ça, c'est FIFA, donc c'est
je suis un peu plus partagé maintenant.
Moi, j'ai été très surpris par PES quand même. Mm-hmm. D'abord, je le trouve très beau, encore plus beau que d'habitude. Mm-hmm. Je suis toujours autant bluffé qu'avant, mais tu sais, chaque année, ils en rajoutent par les animations. Le comportement de la balle est dingo. Après.
Sur FIFA?
Non, sur PES. Vraiment, je suis très surpris par PES. Je le trouve très beau, très bien fait. Après, il y a un truc, c'est que on se défait quand même toujours pas. Et toi, d'ailleurs, c'est ce que t'aimes, je crois, à Traz. Mm-hmm. Des sensations d'avant, quoi. C'est-à-dire, les trucs un peu automatisés, les phases de jeu qui se ressemblent un peu toutes depuis des années. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je crois que, encore cette année, je préférerais FIFA. Mais disons qu'il y a une hésitation chez moi cette année qu'il n'y a pas eu
depuis l'année dernière, en fait.
Bah non, l'année dernière, non, franchement,
il n'y a pas d'hésitation. Toi, tu préférais vraiment,
ouais, je préférais vraiment FIFA l'année dernière, ouais. Et là, je dirais que je vais certainement préférer. J'ai pas assez joué à la démo de FIFA. On n'a pas encore eu l'occasion de rentrer vraiment dedans. Ils ont quand même changé de moteur, FIFA.
Ouais, ils sont passés sur Frostbite.
Voilà, ils sont passés sur Frostbite. Et il n'y a pas que les graphismes qui changent. Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, j'ai aimé vraiment réapprendre à jouer à FIFA. Cette année, je sais pas, j'ai pas le même feeling. J'attendrai d'y jouer plus. Mais voilà. En tout cas, surpris par les qualités de PES. Et finalement, le fait que petit à petit, il continue quand même à progresser. Bah, par petites touches, hein, soyons clairs. Il a toujours des défauts que j'aime pas. Mais je trouve qu'on est de plus en plus proche du match nul, quoi. Voilà.
Très bien. Traz, de ton côté, toi qui as pu essayer les deux. Donc la démo de PES. Non, la démo de FIFA, ouais. Et le PES version finale. Quel est ton avis pour l'instant sur la question?
Eh bien ouais, un peu comme Julo, je suis un peu plus partagé qu'au début. Au début, je penchais vraiment beaucoup plus sur PES. Même si c'est vrai, la grande différence quand même entre les deux, c'est que moi, graphiquement, je trouve que PES est quand même bien devant.
Alors là on n'est pas spécialement d'accord.
En termes de modélisation des visages, moi, je crois qu'il y a juste rien à dire. Je trouve que PES est quand même incroyable.
Sauf sur certains joueurs.
À mon sens, hein, après, bon, chacun.
Mais après, les terrains, parce qu'on voit, surtout de loin quand même. Hein. Chaque fois, on fait des gros plans sur les visages, oui, c'est rigolo. Mais c'est surtout au niveau de l'habillage sur le terrain, sur tout ce qui peut se passer autour.
Vu de loin et tout, je trouve que PES est quand même mieux rendu.
Ah ouais.
Ouais. Et parfois, sur le ralenti sur FIFA, t'as des espèces de trucs bizarres à l'écran qui s'affichent. C'est pas très beau.
Tu parles des liens entre les animations, non, le blending et tout.
Oui, voilà. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus.
Il y a des trucs un peu bizarres dans FIFA, mais
ça fait un peu plus cinéma, cinéma dans PES, qui est vachement mieux rendu. Ce sont vraiment.
Oui, ils sont rattrapés d'ailleurs sur les cutscenes. Hein,
voilà,
ils ont fait un peu plus de boulot.
Non, mais après, c'est pas le jeu. Hein,
C'est quand même dur de choisir. Hein, C'est vrai que je me.
Mais c'est une histoire de quoi en fait? C'est une histoire de gameplay,
à mon avis,
de rendu, de mode.
Tu sais quoi? Le vrai truc, tu sais ce que c'est? C'est à quoi jouent tes potes. Je pense que la plupart des gens qui doivent choisir entre FIFA et PES, quand on en arrive à, je veux dire, à un niveau quasi équivalent, mais bon, on va dire ils ont des qualités et des défauts différents les deux, finalement tu regardes à quoi jouent tes potes. Hein. C'est comme au début quand il faut choisir la Xbox One ou la PS4 quand tes consoles sortent, tu t'arranges de voir avec tes amis avec qui tu as l'habitude de jouer en ligne, sur quoi on va jouer, etc.
Alors qu'avant on s'arrangeait pour savoir qui avait pas la même console que toi pour pouvoir s'échanger les jeux, s'échanger les consoles. Ouais, c'est fou, hein.
Oui, mais là il y a le jeu en ligne maintenant.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Donc c'est quand même autre chose. Donc oui, je sais pas, j'imagine que les gens se basent surtout là-dessus.
Et sur les licences aussi, puisque et c'est quand même quelque chose voilà, de rassurant du côté de chez FIFA.
C'est vrai que FIFA t'es dans des chaussons quoi. Hein. C'est quand même agréable. Hein. Tout est là.
Même si PES essaye de faire des efforts quand même. Hein. Ils ont quelques
et ils ont la Ligue des Champions, c'est pas rien non plus.
Ouais.
Mais en même temps, tu vas jouer la Ligue des Champions avec comment s'appelle la Juventus dans PES?
PM Black White.
Ouais. PM Black White. Alors ouais. Ça veut dire Piémont.
Après, il y aura peut-être des mises à jour, hein, tu vois, qui vont changer un petit peu d'autres trucs. Puis de toute façon, quoi qu'il arrive, la scène.
Oui, t'as un mode éditeur.
La scène de la communauté de PES a déjà balancé des packs.
Mais oui, c'est
pour que tu puisses bah, être à l'aise quoi, et avoir changer, les équipes à jour déjà pour commencer et ensuite avec tout leur kit.
Moi c'est pas le truc qui me gêne le plus hein, franchement les noms des trucs.
Ouais mais pour le grand public
le gameplay avant tout
tu sais
le grand public tu t'achètes FIFA tu sais que c'est un jeu FIFA.
Ouais mais un gamin de 12 ans qui veut jouer avec Ronaldo, Messi, avec les plus grands clubs, qui veut jouer avec Manchester United,
le fan de Manchester United il achète PES, il a ni Pogba ni Ibrahim.
Pas au printemps, avant la sortie, ça y est, c'est réglé, c'est réglé,
les mises à jour,
ça y est, c'est fait la mise à jour. Ah donc ils l'ont vraiment fait cette année?
Ouais ça y est, c'est fait,
parce que l'année dernière ça a été quand même.
Là, j'ai eu un doute, je crois, le premier jour, mais à la fin de la journée,
En même temps, les mises à jour, il y en a tellement au fil du temps que PES, je m'en souviens, il a eu un sacré pack de mises à jour.
Exact.
Et pas des petites, hein, en plus, à chaque fois, c'est 1 ou 2 gigas.
Ouais, mais la première, on l'a attendu très longtemps.
Quoi. Ouais, je sais bien, mais ça,
et
c'est
il n'a pas apporté que du bien. Voilà.
Oui, certes, c'est possible, je sais plus exactement, mais bon.
Pour
moi,
tout
un truc qui me chiffonne dans FIFA, effectivement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu as la jauge de passe et de puissance. Qui est carrément en bas, je trouve ça complètement débile.
Mais
je vois vraiment pas l'intérêt quoi.
C'était le cas avant sur PES, hein, quand on jouait à ISS Pro Evolution 2.
Oui, mais avant la jauge, on la regardait pas justement parce que.
Mais t'as une vue périphérique, je veux dire, t'as pas des yeux.
Non,
hein,
non,
tu
non,
vois
non,
pas.
T'as pas quand tu tires.
T'as des yeux de 25 cm de
en pleine action. Tu tires, tu vas regarder.
Jamais tu regardes.
Mais j'arrive déjà à voir ce qu'il y a derrière moi, alors tu m'étonnes que je.
Non, mais toi t'es un génie, c'est ça que tu veux dire, c'est ça. Tu vaux mieux que nous, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça que tu veux dire.
Exactement.
Et bah moi je m'en vais, voilà.
C'est vrai?
Non.
Bon. Bon, il y avait un point sur lequel Trace t'avait appuyé quand on avait discuté avant le podcast, c'était que
c'était seuf,
c'était
non
pas non, non c'était ça. Pas mes seufs, c'était l'immédiateté avec laquelle on pouvait rentrer dans un PES contrairement à un FIFA qui était peut-être un peu plus
technique,
comment dire, un peu plus technique, un peu plus laborieux, voilà exactement.
Bah oui, effectivement, mais ça c'est l'apanage de tous les PES qui était bien fait,
ouais.
Parce qu'il y en a certains qui étaient catastrophiques, mais quand c'est le cas, effectivement, c'est super intuitif, t'es tout de suite dans le match, si je puis dire. Et là effectivement, celui qui est habitué à la saga, à la série, forcément il rentre.
Et même quelqu'un qui est novice dans le style de jeu de foot,
c'est un petit peu plus accessible, effectivement.
Il arrive à plus facilement
à condition
rentrer.
De bien connaître à chaque fois les fameux boutons pour faire les trucs en 2 secondes.
Là où FIFA a un rythme peut-être un peu plus lourd, un peu plus lent.
C'est peut-être un petit peu plus technique quand même.
Ouais.
Mais regarde, je veux dire, PES, effectivement, c'est sûr que t'es pas dépaysé. Enfin, je veux dire, c'est le même jeu avec des petites améliorations de ci, de là, chaque année. FIFA, il crée des nouvelles features, quoi. Enfin, des vraies nouveautés. Par exemple, cette année, il y a ce bouton, c'est R2, c'est ça?
Avec L2, tu fais la couverture
L2,
de balle.
L2, quand tu changes pas les boutons, c'est ça, R2, quand tu les changes, bref. Qui sert à protéger son ballon avec le bras.
C'est L2, hein.
L2, voilà.
Mais c'est nouveau ça?
Ouais, c'est nouveau.
Mais bien sûr, c'est nouveau.
Ouais.
Mais je veux dire,
pas joué au
dans le
FIFA
foot,
précédent, alors,
ça existe. Donc, quelque part, les développeurs de FIFA, c'est un peu là-dessus qu'ils se basent. Ils disent, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça dans un jeu de foot alors qu'en fait, tous les joueurs de foot font ça, quoi. Et à un moment, tu peux poser ton pied sur la balle, mettre ton épaule, ton bras, essayer de pas te faire prendre la balle. Sauf que c'est un peu surpuissant, je trouve, dans FIFA. Ouais. Parce que c'est quasiment impossible de prendre la balle.
Si, c'est faisable, mais c'est vrai qu'après, à réception, quand tu reçois la balle, mais il faut voir les joueurs professionnels d'aujourd'hui. Si t'as un Zlatan Ibrahimovic qui reçoit la balle dans les pieds de haut but, qu'il est déjà penché, tu vois, il est un peu penché justement pour pouvoir protéger son ballon et donc écarter en même temps le joueur qui est derrière lui ou à côté de lui avec du bras. Bah, tu peux voir qu'il tombe pas, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Mais maintenant, il faut voir si l'application dans le jeu va pas être trop surpuissante. Moi, ce que j'avais pu noter, notamment dans la démo, c'était que les frappes enroulées avaient tendance dans FIFA encore une fois à être un peu trop meurtrières. Ça, c'était un des trucs. Bon, voilà, il faudra voir.
Les gardiens sont quand même assez surpuissants. Hein, donc,
mais il faudra voir sur la version finale.
Dans PES d'ailleurs, les gardiens ont augmenté leur niveau. Hein.
Ah oui, complètement. Ça fait partie des gros points.
C'est pas plus mal ça. Parce que,
vu la puissance des frappes, remarquez.
Ceci dit, je sais pas à quel niveau tu étais
sur FIFA.
Sur FIFA, mais j'ai gagné 5-0, super facile.
Ah bah ça doit être amateur alors. Parce que je suis pas. Voilà.
J'ai mis des
c'était un secret que je voulais garder, mais en vrai, je n'ai pas joué.
Tu vas les regarder en replay.
Tu joues en amateur, toi?
Bah ouais, j'ai pas le choix. Je ne suis pas assez bon. Non, mais par contre, FIFA, c'est vrai que cette année, ils tentent des choses pour essayer de se renouveler. Ils ont un mode aventure dont on vous parlera au moment du test, parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore pu le creuser en profondeur, mais qui propose enfin une espèce de scénario dans un mode carrière d'un joueur, ce qui est quand même presque une révolution hein, pour un jeu de foot. C'est quelque chose qui existe déjà sur NBA 2K, ouais, sur WWE 2K aussi. Ça fait partie des petits trucs qu'ils apportent. Puis bon, tous les modes de jeu, évidemment, qu'on aura l'occasion d'essayer au moment du
en
test.
En fait, c'est un mode histoire, hein, tout simplement.
Oui, oui, absolument. C'est un mode histoire scénarisé. Quoi.
Ils l'ont appelé aventure parce qu'ils ont.
Mais il y a des petits trucs qui ont l'air de déranger aussi. Et j'ai pu voir ça avec des joueurs, des vrais joueurs, des vrais passionnés de FIFA, quand j'ai fait le tournoi FIFA 17 il n'y a pas très longtemps. C'est le système de corner. Le système de coup franc.
Mais moi, ça va pas déranger.
Le système de corner de FIFA est vraiment chelou.
On choisit l'endroit où on va le mettre.
Mais
en
moi, je trouve pas ça
le ballon
si nul que ça.
Plutôt
oui,
que d'avoir
quand une trajectoire. Quand tu joues à deux, le mec, il voit où tu vas faire ton.
Mais non, parce que je crois que tu peux encore modifier des
non, tu peux faire disparaître le truc, mais si tu fais disparaître le.
Pour les coups francs, tu peux revenir à la caméra d'avant. Pour les corners, non.
Pour voilà, les corners, tu es obligé d'utiliser la petite pastille là. Et si tu veux pas que la personne qui joue contre toi voit à quel endroit tu vas faire ton corner, il faut que tu vires la pastille. Mais à ce moment-là, tu sais pas du tout où tu vises quoi.
Bah ouais, c'est ça. Il va falloir apprendre au jugé. Et bon,
c'est vrai dans PES, sur les corners.
Fausse bonne idée.
Sur les corners, t'as plusieurs options disponibles que tu sélectionnes.
Ah oui, t'as des tactiques, oui, que tu peux actionner, le petit train, etc.
Genre tout le monde fonce.
Ça, c'est dans PES, ça.
Ouais, c'est dans PES.
Ouais, c'est pas mal.
Au niveau tactique,
ils ont trouvé des petits trucs quand même qui sont sympas.
Ah bah, je pense.
Et que FIFA va reprendre l'année prochaine, évidemment.
Mais que FIFA, FIFA applique déjà pas mal hein, ce genre de choses depuis plusieurs années d'ailleurs, des tactiques qui se mettent en place automatiquement une fois qu'on appuie sur la croix directionnelle dans le jeu. C'est des petits trucs aussi que PES a été pioché hein. Ils ont été reprendre le système d'attaque et défense, d'attitude offensive et défensive qu'ils avaient déjà il y a quelques années, mais qu'ils ont repris et du coup ils ont réadapté. Et tu vois sur l'IA dans PES que ça a une vraie grosse influence sur le jeu. Il faudra voir aussi dans FIFA si c'est toujours le cas aussi. C'était déjà le cas l'année dernière, donc je ne sais pas pourquoi ça changerait. Mais c'est vrai que moi, il y a 2-3 petits trucs dans FIFA qui me gênent un peu, notamment le système de pénalty, qui est très mal expliqué.
Je trouve ça
extrêmement mal expliqué.
Ça fait des années qu'il n'y a plus de pénalty correct dans les jeux.
Je pense que quand tu maîtrises ce truc-là, ça peut aller, mais je trouve ça mal foutu.
Regarde Ibra là.
Tu peux choisir l'élan, tu peux choisir au tout dernier moment la direction, la vitesse, etc. Je pense qu'il y a un truc à creuser, mais c'est vrai qu'il rend fou parce qu'il est très très mal expliqué.
Ouais, mais c'est surtout pourquoi compliquer un truc aussi basique quoi. Je veux dire, un penalty, tu veux dire à droite, à gauche, en bas, voilà, c'est tout.
Il faut rajouter une petite, tu sais, un petit truc pour que ça soit.
C'est histoire de dire on a changé le truc, mais je vois pas l'intérêt. Mais ça devrait être beaucoup plus simplifié parce que. Un tir au but, un penalty, c'est voilà, t'as la balle et tu tires comme un bourrin ou pas quoi, ou en finesse, ou... c'est tout. Il y a pas besoin de tricoter les trucs à outrance.
Ouais, c'est peut-être pas un choix forcément judicieux de la part de FIFA.
Comme les commentaires de Darren Tulat sur PES, c'était pas un
choix très judicieux. Parle
aux gens de Darren Tulat.
Non, mais là, honnêtement, Darren Tulat, franchement, il faut arrêter quoi. Mais tout de suite, il faut vraiment arrêter. Enfin, dis les conneries là. Parce que sincèrement, je trouve que c'est encore pire que l'année dernière.
Bah là, je t'avoue que le truc qu'il dit en début de deuxième mi-temps.
Je suis pas le seul à le penser en plus.
Quand il dit je ne veux pas faire mon Captain Obvious, mais ça va être difficile de remonter.
Bon. Non, mais c'est calamiteux quoi.
Tout ce qu'il réussit à faire à la télé. Moi j'aime bien ce qu'il fait à la télé personnellement.
C'est pas que de sa faute, hein, c'est parce que les commentaires sont moins variés dans PES que dans FIFA aussi.
Et les mêmes phrases reviennent
encore.
Et c'est des phrases qui sont écrites et que lui.
C'est pas journalistique à la télé, mais c'est dans le jeu quoi. Dans le jeu.
Margoton essaye aussi de s'en sortir, mais c'est vrai qu'après.
Margoton, je préfère.
Il y a une redondance dans les commentaires et puis un mauvais placement.
Cela dit, faut être de bonne foi quand même. Dans FIFA aussi, ça tourne assez vite en rond.
Moins vite.
Mais il y a un moment où ça tourne.
On attendra de voir avec Pierre Ménès ce que ça donne. Mais je trouve que Hervé Matou et Franck Sauzet, qui sont restés très très longtemps en duo, et je trouvais que ça marchait très très bien.
Mais bien sûr.
Mais vraiment très très bien.
Sauzet est très très bon.
Ah oui, Sauzet c'était un super joueur. Je sais que tu ne l'aimes pas trop, Julo, suite à un tir.
C'est un patateur.
Un tir face à Joël Batz dans les années 80, je crois, qui était à peu près de 30 mètres à ras de terre, qui avait fini, je crois, dans le but, qui avait donné le titre à l'OM si je ne m'abuse.
Je me rappelle pas de ça.
Voilà, je me souviens bien, je me souviens bien.
Il s'en souvient plus.
Bref, il y a plein de trucs.
C'était un vrai patateur lui. Il te décochait des frappes
notamment face à Joël Batz.
Sauzet.
D'ailleurs, c'est un peu un Batiston.
Tu peux le refaire celui-là.
T'as le football là.
Non, mais moi je me rappelle.
Refais-le.
Sauzet.
Non, mais
les beaufs du football.
Ce dont je me souviens, c'est que la première fois que j'ai entendu la voix de Sauzet, j'ai été super surpris. Parce que pour moi, il parlait comme ça, tu vois. C'était un peu un bourrin, quoi.
Si jamais... Et en fait, quand il parle pas comme ça, Sauzet. Il a
mais pas du tout.
Il parle comme ça.
Mais il te décochait des frappes, le mec. C'était des patates, mais c'est interstellaire, quoi. C'était Olivier Tom. Olivier Tom, vraiment. Et quand tu entends sa voix.
Alors, oui, effectivement.
C'est super bizarre.
Mais j'aime bien aussi. Titi Parisien. Il paraît qu'on l'appelait Kaiser à une époque.
C'est vrai, ouais. C'est possible.
Bon, bref.
Il était boiteux aussi.
Donc, bon, bah, tout ça pour dire que PES et FIFA, ça va encore être très difficile de les départager cette année.
Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, PES est revenu et FIFA est resté quasiment à son niveau de l'année dernière. Donc, on va pas s'en plaindre. Hein. Après, le choix est difficile. Hein. Je pense que si vous êtes riche, achetez les deux.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler. De toute façon, si le test pauvre, devrait pas tarder à arriver pour
oui,
FIFA.
Oui, vous arrivez bientôt à
ce moment-là.
Tests,
paf, on fera le, on tranchera.
Et paf,
on dira, tiens.
On a choisi.
On fera ça bien. Cliniquement même, je pense. On fera graphisme, gameplay, voilà. Mode de jeu.
Ça
a
jamais
blablabla.
Été fait en plus, ça, je crois.
Non, c'est vrai.
Jamais. Non, jamais fait.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est une super idée. Ça.
Putain, mais je connaissais. Je savais pas du tout.
Depuis que le jeu vidéo existe, je pense que ça a jamais été fait.
Attends, ouais, mais écoute... par exemple, attends, on pourrait donc graphisme.
Graphisme.
Graphims, ouais. C'est vrai, c'est peut-être mieux si on dit Graphims.
Ah ouais, putain, mais j'ai eu un écart de génie là comme ça.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre?
Je savais pas ça. Tu vois,
Bah, modélisation.
Ça se fait.
Modélisation, putain,
mais c'est incroyable, génial. Les mecs.
Modélisation 3D.
Mais oui, il faut qu'on fasse des brainstorming plus souvent.
Mais ouais, on est là, on va faire des réunions en podcast.
D'ailleurs, on l'a fait là tout de suite.
Bon, pour la semaine prochaine alors.
Donc, on verra bien pour FIFA 17 contre PES 2017. Moi, pour l'instant, j'ai toujours un avantage pour FIFA 17.
Moi, un petit peu plus pour PES, mais bon.
Mais pour l'instant.
Ce n'est que mon avis.
Et moi, je ne m'exprime pas.
Oh, toi, bah
allez.
NSPP.
Bah allez.
Non, bah, moi, j'ai un petit fait pour FIFA depuis maintenant quelques
ans.
Années.
Ouais.
Je sais pas, j'ai pas pris ma décision.
D'accord.
C'est vrai. Hein.
Bon, mais je vous le ferai savoir aussi.
Parfait.
Peut-être que je m'immiscerai dans ton article d'un genre nouveau.
Ouais.
Et que je dirais. Peut-être tu pourras faire un encadré comme dans la presse.
Ah oui.
Alors, l'avis de Julot.
Ah ben oui, ça serait
par
pas
exemple.
Dans les 80.
Ah
ouais.
Et là, je donnerai mon avis à l'intérieur.
C'est vrai, ah, ça peut être incroyable. Une idée. Ça, putain, on a des idées de génie.
Bah,
je
dirais,
c'est incroyable. En termes d'innovation, je pense qu'il faut qu'on appelle Jean-Jacques Bourdin pour l'innovation des startups, là, le truc qu'il fait tous les ans sur RMC.
D'ailleurs,
parce qu'on est en plein dedans, quoi.
On pourrait lancer une application de comparatif comme ça.
Mais oui, putain. Ah, mais oui. Là, on pourrait faire un truc en réalité virtuelle aussi.
Exactement.
Bon, tout ça pour dire que c'est très difficile de les départager. PES 2017 et FIFA 17. On verra avec les tests, on verra avec le fameux dossier incroyable ouais. Que personne n'a jamais fait.
On va tous y mettre à 12.
Et puis on va dire que c'est la fin de ce podcast, messieurs.
Bah, tu sais, c'est
déjà
comme tu veux, hein, après,
ah ouais, déjà, ouais.
Non, mais tu rigoles.
Non, mais si tu veux qu'on rajoute un thème, on peut rajouter un thème. T'as une idée là comme ça.
Thème de Yoshi, tiens. Parle de Yoshi un peu.
On a parlé de Yakuza 6. Ouais. Non, ça s'est fait.
Ça s'est rangé, ça s'est effectué.
Non, je sais pas.
Attends, de quoi on n'a pas parlé aujourd'hui
Je sais pas.
Ta mère t'a appelé pour PES 2017 ou
Ah non, pas encore, mais peut-être que je lui en parlerai si elle est curieuse sur le sujet. Je lui dirais que tu préfères toujours FIFA. Elle s'en remet toujours
non, parce
à ton avis à toi.
Sache-le. Elle t'a appelé pourquoi déjà? Pour quel jeu?
Yakuza 6.
Ah, pour Yakuza 6, ouais. Lui, bah, c'est quoi ce bordel?
Non,
bah, ouais.
Parce que effectivement, Romain avait raison. Je pense que Romain. Ou... Non,
c'est moi qui.
C'est toi qui disais qu'il y avait un retentissement international suite
aux démonstrations de Yakuza 6,
voilà,
tu vois, avec Takeshi Kitano, etc. Il y avait plus en plus de monde qui en parlait alors que les.
Oh, mais t'avais qu'à être là, merde, on va pas refaire le podcast.
Et du coup, sa maman l'a appelé pour lui dire c'est quoi ce bordel, Yakuza 6, là, je suis hypé à fond, vas-y, achète-moi une console, etc. Enfin bref. Eh bien messieurs, merci pour ce dernier podcast
merci
de la rédaction.
Pour ce moment.
Podcast 390 qui s'achève donc.
Dernier podcast ?
Oui, c'est le dernier podcast.
Ah bah c'est le dernier de la saison. Cette année, il n'y a que là. Deux podcasts en fait.
Ok, bon.
La saison se continue, on plaisante évidemment. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Je ne vais pas remercier Poufi à la Sono. Merci Poufi
à
la Real. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude.
Et évitez de swatting aussi quand même. C'est
n'hésitez pas à nous laisser vos avis et commentaires dans les forums. Ci-dessous. Je rappelle, tiens d'ailleurs au passage, hein, sur les démos, les avis des lecteurs, c'était 75% pour FIFA 17 et 24% pour PES 2017. C'était déjà assez.
Ouais, mais bon, ça représente.
Les démos.
Ça représente le public des deux jeux, je pense.
Les démos.
Aujourd'hui,
les démos, peut-être que pour les versions finales, ça changera. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du TGS. Si vous avez eu vous aussi des coups de cœur et des déceptions pendant ce salon, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé de PES 2017. Et de la démo de FIFA 17, peut-être le jeu final, on verra plus tard. Et puis d'ici là, bon, je vous dis à la semaine prochaine, évidemment, pour un autre podcast de la rédaction.
Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil au deuxième podcast de la semaine dernière sur la saga Fallout
dont vous a parlé déjà au début de podcast. Mais c'est bien de faire des rappels.
Mais oui, exactement, rappelons-le.
Il faut le rappeler parce qu'il y avait quand même deux game bloggers avec nous, Ninjado et Akiron.
Et c'était vraiment une expérience sympa, autant pour nous que pour eux, si j'ai bien compris. Ils ont d'ailleurs signé une espèce de petit livre d'or. On a fait une petite news là-dessus.
Et si vous vous sentez investi d'une mission mission sacrée, à propos d'une saga en particulier, n'hésitez pas, demandez-nous. On ne sait jamais, on pourra peut-être répondre, dire oui, bah viens, viens ma couille, on va s'amuser, on va boire des bières et tout. Il n'y a pas de problème, tout est possible chez Gameblog. Et notamment, on a envie de faire ça avec vous. Ces podcasts saga avec Gameblogger, c'est très intéressant.
Tout
en tout
est possible, même
l'incroyable. Pour Carole et pour moi, et pour évidemment Ninjado et Akiron. Et visiblement, vous avez été nombreux à apprécier, donc n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout.
Yakuza 6
Non, jouez bien.
Mais ah merde, je suis
trop. T'as encore tout cassé.
Ah, t'es con quoi.
Allez, ciao.
Salut, adieu,
salut,
merci.
Salut, adieu.
Et plus tard.
Adieu,
merci. Et salut, au fait.